Europe Soir Weekend, Pierre de Villeneuve.
Bonsoir, bonsoir à tous, bienvenue dans Europe Soir, 2 heures d'infos, d'interviews et de débats. Il est 18h. Et au sommaire de ces 2 heures, la canicule, bien sûr, température au-dessus de 40 sur toute la France, vigilance rouge sur tout le flanc atlantique de Nantes au Pays Basque. Orange sur tout le reste du territoire, précision dans quelques minutes avec Valérie Darmon. Mais nous irons tout d'abord à Châteauroux, où une grande partie des habitants sont privés d'eau en cause de la très dangereuse bactérie E. coli, comme dirait l'autre, c'est pas le jour. Dans l'actualité aussi, le Covid, non, on ne s'inquiète pas, mais c'est vrai, regardez autour de vous, certaines personnes l'attrapent à nouveau. Sans recommandation officielle, le professeur Delfrécier du Conseil scientifique préconise tout de même de remettre le masque quand il y a foule, nous l'entendrons. Pénurie d'huile, de moutarde, de différents matériaux, aussi dont le verre. Les producteurs de vin en souffrent, on vous explique tout. Le sport, c'est athlé et surtout rugby. Ce soir, la suite des demi-finales du top 14. Montpellier reçoit Bordeaux-Bègles à 21h05. 18h15, pas d'invité politique, veille d'élection, c'est normal. Car même si Rodrigo Basilicati Cardin a vu sur l'Elysée, il n'a pas des vues sur l'Elysée. L'héritier de l'homme d'affaires couturier gère désormais lui-même cet empire qui n'appartient à aucun grand groupe ni fonds d'investissement. Il nous fait le plaisir d'être avec nous dans quelques instants. 18h30, ça fait débat avec William Tay et Jean-Yves Le Borne, l'Ukraine, Boris Johnson, l'Europe au programme. 19h, le journal de Sophie Tussaud. 19h15, la canicule dans nos assiettes. Quoi manger pour ne pas se sentir mal ni affamé? Le diététicien Arnaud Cocolle nous dira ses recettes. 19h30, Guerre, le Céline oublié, publié dernièrement par Gallimard, fait partie des meilleures ventes de livres. Et cette question qui revient une nouvelle fois, à tort ou à raison, mais elle revient. Faut-il lire Céline ou pas? L'académicien et prix Goncourt Frédéric Vitou nous dira oui, évidemment. L'historienne Annick Durafour ne sera sans doute pas de cet avis. Débat à suivre jusqu'à 20h. Et d'abord donc cette canicule qui s'est donc installée sur toute la France dès hier, mais surtout aujourd'hui avec des températures qui donc dépassent d'une manière générale 40 degrés, beaucoup plus en ressenti au soleil. On va y revenir dans quelques minutes avec Valérie Darmon, mais d'abord direction Montpellier où chacun adopte sa méthode pour contrer cette vague de chaleur. Et au-delà du système D de chacun, on fait Dieu merci en ce 21e siècle des progrès en matière d'urbanisation et d'architecture. Ainsi, l'écoquartier Rive Gauche, qui compte 1200 logements depuis 2012, a été pensé pour limiter les îlots de chaleur. Reportage Benjamin Peter.
L'îlot refermé, c'est le pire pour l'îlot de chaleur urbain. En cas, c'est ça.
Alors Pierre Tour, l'architecte urbaniste de l'écoquartier Rive Gauche sur les bords du Lez, a banni les lignes droites pour favoriser les courants d'air entre les immeubles.
On a des lignes un peu brisées pour favoriser la circulation de l'air. Deuxième chose dans le cas de ce quartier, on profite de ce qu'on appelle l'évapotranspiration du Lez. Et dans l'architecture elle-même, il y a une base, c'est qu'il n'y ait jamais un rayon de soleil sur une partie vitrée.
Dans le cahier des charges, il a donc préconisé le recours aux persiennes, aux balcons profonds pour faire de l'ombre dans le logement. Pour les habitants comme Daniel et Marie-Christine, tous ces aménagements sont très efficaces.
On a un appartement traversant, ça nous permet de faire évidemment un courant d'air. Les appartements, les immeubles sont récents, donc ils sont très bien isolés et ça se ressent.
Je suis très sensible aux problèmes d'environnement, donc je refuse la clim, donc je ferme toute la journée, j'ouvre la nuit et on fait courant d'air. On a un jardin intérieur qui rafraîchit.
En tout, 500 arbres ont été plantés pour créer des îlots de fraîcheur, un ensemble de facteurs qui a permis de réduire en moyenne de 8 à 10 degrés la température ambiante du quartier. À Montpellier, Benjamin Peter, Europe 1.
Voilà donc pour l'architecture et l'urbanisme. Enfin, je vous l'avais remarqué, surtout en ce samedi caniculaire, c'est mieux d'avoir sur soi de l'eau. Et l'eau, quand il n'y en a pas, bah c'est compliqué. Bonsoir Gilles Averrousse.
Bonsoir.
Vous êtes le maire de Châteauroux. Il se trouve que dans votre ville, eh bien, près de 25 000 habitants sont privés d'eau du robinet.
Oui, c'est ça. Depuis hier soir, sur demande de l'Agence régionale de santé, après une analyse qui a démontré la présence de la bactérie Escherichia coli, on a dû interdire la consommation d'eau potable et puis mettre en place un système de distribution de bouteilles d'eau à destination de la population, grand public et personnes vulnérables.
Alors, pas d'eau potable, ça veut dire évidemment pas la boire, ça veut dire aussi d'autres choses, par exemple, on ne peut pas donner le bain aux nourrissons.
Voilà, c'est ça en fait, les nourrissons sont assez sensibles à la bactérie, donc il faut absolument les protéger. Pour le grand public, il y a moins de contraintes puisqu'on peut prendre une douche, mais pour les nourrissons, c'est interdit. Et puis évidemment, toute la consommation est interdite. Et puis l'utilisation pour faire la cuisine, simplement, il faut la bouillir si on veut pouvoir l'utiliser.
Est-ce qu'on sait comment elle est apparue, cette bactérie ?
Alors, on sait qu'on a eu un dysfonctionnement important du système de chloration de l'eau en début de semaine, qui normalement aurait dû être détecté rapidement avec un système d'alarme qui n'a pas fonctionné non plus. Et donc, ces deux anomalies conjuguées ont fait que pendant quelques heures, on n'a pas eu de système de traitement de l'eau et que la bactérie a pu se développer. Voilà, donc ça a été réparé depuis. Les analyses qui arrivent progressivement sont toutes favorables. Donc, on espère que d'ici demain soir, quand on va voir l'analyse principale, on puisse lever l'interdiction de consommation de l'eau, mais pour l'instant, par précaution, on continue à maintenir cette interdiction.
Donc plutôt jusqu'à demain soir, demain dimanche soir donc.
C'est ça, on aura les résultats vers 18h, 18h30, donc on pourra prendre des décisions à ce moment-là.
Et jusqu'à présent, alors pour ces 25 000 habitants, on fait comment ?
Alors 4 points de distribution de packs d'eau, où la population peut se rendre naturellement, et puis pour les personnes vulnérables, celles qu'on a sur notre fichier canicule, hein, habituellement, ce qu'on appelle, ce qui correspondent à 300 personnes, on va dire, isolées, plus les établissements de retraite, privés, publics, c'est plus de 700 personnes qu'on a alimentées directement avec des services réalisés par nos personnels de l'agglomération de Châteauroux Métropole, mais aussi par les pompiers, aussi par la protection civile, qui sont mobilisés pour aller au plus près des personnes qui en ont besoin. Donc on a porté des packs d'eau, on a mobilisé on a distribué à cette heure-ci plus de 75 000 bouteilles déjà.
Et question bête, mais Candide, en tout cas, il n'y a pas d'émeute, ça se passe bien.
Non, alors ça se passe naturellement bien. Alors on a aussi l'appui des grandes surfaces, c'est-à-dire que les gens viennent à la fois dans nos lieux de distribution, mais aussi dans les grandes surfaces. Et même si ce matin il y avait beaucoup d'affluence aux différents lieux de distribution et dans les grandes surfaces où les gens faisaient un peu la queue, ça s'est fait vraiment avec une entraide et puis j'allais dire un bon esprit. Il n'y avait pas d'agressivité ni de part ni de l'autre.
Eh bien, merci beaucoup Gilles Verrouze de toutes ces précisions.
Vous
êtes le maire de Châteauroux. Merci d'avoir été en direct sur Europe 1. Bonsoir Valérie Darmon.
Bonsoir Pierre, bonsoir à tous.
Cet épisode caniculaire, il va durer jusqu'à quand ?
Alors encore quelques heures, hein, parce que au même moment où nous on étouffe, il ne fait que 12 dans le nord-ouest de l'Angleterre. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que c'est important, parce que c'est cette aire océanique qui, dans les prochaines heures, va envahir le nord-ouest de la France et le Pays Basque. Alors aujourd'hui, vous le savez, on a battu des records mensuels à Nantes, à Bordeaux, à Rennes, à Saumur, à Niort, à Auxerre, record absolu pour Biarritz avec 42,4 degrés à 16h, 41,1 à Cazaux, 38,1 à Pau, 37 à Rennes, des températures dignes des pays tropicaux, qui, comme prévu, commence à baisser déjà par le sud-ouest. Le vent d'ouest dont je parle là est rentré sur le Pays Basque aux alentours de 16h30, faisant chuter en 12 minutes à la pointe de Socoa à Saint-Jean-de-Luz les températures qui sont passées de 41,6 degrés à 29,3. Même chose à Hendaye avec une perte de 15,3 degrés en 20 minutes. Et puis pour la région parisienne, peut-être un record mensuel aussi, parce qu'il ne fait pas aussi chaud que prévu. Actuellement, à 18h, il fait 38 contre 41 initialement prévu, c'est quand même 14 degrés au-dessus des normales.
Merci Valérie Darmon, précision complète en fin de journal. Deux incendies en cours à l'heure où l'on parle, les deux sur des camps militaires. Le premier déclaré vers 15h tout à l'heure à Coëtquidan, les pompiers sont sur place. Le second sur un vaste camp d'entraînement du Var, camp en partie miné, ce qui rend évidemment très très difficile toute intervention. On y revient tout à l'heure dans le journal de 19h. Il est 18h08, le Covid, non, on ne s'inquiète pas. Mais c'est vrai, regardez autour de vous, certaines personnes l'attrapent à nouveau. 50 000 cas journaliers avec des taux d'incidence et de positivité continuellement en hausse depuis quelques jours. Mercredi, le Covid sera évoqué en Conseil des ministres avec peut-être des mesures de freinage, rien n'est sûr pour l'instant. Dans l'immédiat, sans recommandation officielle quelconque, hein, je tiens à le préciser, le professeur Delfrécy, président du Conseil scientifique, préconise tout de même de remettre le masque quand il y a foule.
Pour limiter, entre guillemets, l'importance de cette vague au BA5, eh ben, c'est d'avoir une recommandation, en région parisienne en particulier, de reporter le masque dans les transports en commun, parce que c'est bien là où les choses peuvent se passer. Il y a une autre question qui, à mon avis, est plus importante, parce que plus pratique, là, immédiatement, c'est des gens qui ont eu leur troisième dose et qui posent la question, disant, mais est-ce que je dois me faire avoir la quatrième dose maintenant ? Ou au contraire, j'attends plutôt septembre, comme on l'avait évoqué, à une période. Et je crois qu'il faut être clair, si on est âgé, plus de 60 ans ou de 65 ans, si on a des facteurs de risque, il faut avoir sa quatrième dose dès maintenant.
Le professeur Delfrécy, invité d'Europe Midi avec Thierry Dagiral. Joe Biden, lui, ne souffre ni de la chaleur ni du Covid. En revanche, le président américain, âgé de 79 ans, est tombé de son vélo ce matin lors d'une petite balade dans le Delaware. Tombé à l'arrêt, il s'est rapidement relevé et affirme ne pas être blessé. 18h10, vous restez avec nous dans un instant, 100% de participation. Ça existe pour les législatives, c'est au Champ de la Pierre dans l'Orne. Et là-bas, on rigole pas, on y tient. À tout de suite.
Europe Soir Weekend, informez-vous avec Pierre de Villeneuve sur Europe 1.
Et demain, vous l'avez entendu, grande soirée législative, second tour. J'aurai le plaisir de vous accueillir à 18h sur Europe 1 avec l'ensemble des correspondants et nos invités. La grande question, c'est bien entendu l'abstention. Eh bien, au Champ de la Pierre dans l'Orne, l'abstention connaît pas. 0% au premier tour et c'est comme ça depuis des années. Reportage Nina Droff.
Voilà, c'est une pièce dans laquelle les gens font vote pour qui ils veulent.
Dans la minuscule mairie du Champ de la Pierre, tout est prêt pour l'élection. Une petite pièce dans le fond fait office d'isoloir. Les bulletins sont disposés et l'urne trône sur la table.
Nous avons 28 inscrits et nous espérons en avoir 28 votants.
La semaine dernière, comme souvent, tous les habitants sont venus voter. La ville a même remporté plusieurs trophées de civisme pour cette assiduité électorale. Une fierté pour la maire, Jeanne-Marie Boudet.
Je pense qu'ils ont le sens du civisme, les habitants. Voter est pour eux un devoir.
Hervé, 84 ans, habite la commune depuis bientôt 10 ans et vient systématiquement mettre son bulletin dans l'urne.
Si la démocratie n'est plus le reflet des votes, c'est la fin des figues. D'ailleurs, celui qui ne voudrait pas voter, je vous garantis qu'on va le chercher par le pot du dos et il vient voter. Et on boit un pot après, mais enfin, il vient voter.
Et c'est aussi ça qui attire les électeurs. Dans la commune, les élections sont toujours un petit événement. Jérémy et Marcel sont toujours au rendez-vous.
On est tous réunis, on fait un barbecue, on joue aux boules, on passe la journée devant la mairie.
Le devoir et la convivialité, c'est la mayonnaise qui fait que ça marche.
Et tous les habitants espèrent que l'abstention sera à nouveau à 0% pour ce scrutin.
Voilà, reportage de Nina Droff avec, on l'a compris, un pot à la clé avec un barbecue et ils sont 28. Hein. Cérémonie du 18 juin aujourd'hui au Mont-Valérien. Le président de la République a ce matin assisté à cette 82e commémoration, la première depuis la mort d'Hubert Germain. 115e jour de guerre en Ukraine alors que l'armée russe continue de pilonner le Donbass. Volodymyr Zelensky s'est déplacé en dehors de la capitale Kiev. Le président ukrainien s'est rendu à Mykolaïv dans le sud du pays. Cette ville portuaire est toujours sous contrôle ukrainien. Elle reste une cible de Moscou car elle se trouve sur la route d'Odessa. La guerre en Ukraine qui provoque, vous le savez, plusieurs pénuries, des aliments, notamment l'huile ou encore la moutarde, mais aussi et surtout des matières premières comme le verre. Et oui, vous avez peut-être vu dans les rayons de votre supermarché ou chez votre caviste du vin rosé vendu dans des bouteilles vertes au lieu du traditionnel verre transparent. La raison, c'est que plusieurs grosses usines d'emballage en verre qui fournissaient l'Europe sont en Ukraine. Elles ont été mises à l'arrêt à cause de l'offensive russe. Maude Descamps, les producteurs de vin sont particulièrement impactés.
Oui, premièrement parce qu'il y a une flambée des prix directement liée à la hausse des prix de l'énergie, plus 30, voire plus 40%, soit 13 centimes de plus par bouteille, mais aussi parce qu'il devient de plus en plus difficile de trouver du verre transparent, un verre plus pur, qui demande plus de matières premières. Certains producteurs ont donc fait le choix d'embouteiller leur rosé dans des bouteilles vertes, issues du verre recyclé, comme le raconte Samuel Mongermont, président de Vins et Sociétés.
On a commencé à mettre des rosés dans des bouteilles qu'on appelle feuilles mortes dans notre jargon, qui est le verre traditionnel, hein, verre vert. On a dû réviser notre marketing sur l'étiquette, faire apparaître le mot rosé de façon beaucoup plus importante pour que le client se repère et sache que c'est du rosé à l'intérieur et non pas du blanc ou du rouge.
Les professionnels craignent une baisse des ventes de rosé pour cet été car le consommateur fait souvent son choix en fonction de la teinte, plutôt rose ou plutôt grise. Or, dans une bouteille verte, impossible de voir la véritable couleur du rosé.
Merci Maude Descamps. Le sport à présent, d'abord une défection en tennis. Pas de Wimbledon pour Naomi Osaka, l'ancienne numéro 1 mondiale déclare forfait sur blessure. Le tournoi débute le 27 juin prochain. Et puis le rugby place ce soir à la deuxième demi-finale du top 14. L'affiche, c'est Montpellier-Bordeaux-Bègle. Cédric Chasseur, vous êtes notre envoyé spécial sur place. Montpellier, malgré sa deuxième place à la fin de la saison régulière, n'est pas favori.
C'est en tout cas l'avis de plusieurs spécialistes qui se sont exprimés dans la presse cette semaine. On a très peu parlé du MHR, beaucoup plus de l'UBB, ce qui a valu cette sortie hier en conférence de presse de Philippe Saint-André, l'entraîneur de Montpellier.
Il y a beaucoup de grands spécialistes du rugby, donc je les laisse parler. Nous, on fait notre chemin. On n'a pas volé cette place, bien au contraire. Ce que je peux vous assurer, c'est qu'on va se préparer et qu'on sera prêt à 21h05.
Un peu comme Castres, finalement qualifié hier pour la finale aux dépens de Toulouse, Montpellier avance sans faire de bruit et le talonneur Guillaume Guirado prévient ses futurs adversaires. Après deux semaines sans match, les Montpelliérains sont en forme.
On arrive quand même prêt, on est armé, même si peut-être certaines ne parlent pas forcément bien de nous. Nous, on travaille dur et on n'a pas besoin de parler haut et fort pour se faire entendre.
Et c'est sur le terrain que Guirado et ses coéquipiers comptent se faire entendre. Les Bordelais sont prévenus.
Merci Cédric Chasseur. Match disputé à l'Allianz Riviera de Nice, à vivre en direct en intégralité sur Europe 1 à partir de 21h05. On termine par le ciel, surtout le mercure, j'allais dire. Ça va commencer à se calmer, hein, Valérie Darmon.
Et oui Pierre, enfin l'atmosphère redevient respirable, notamment sur les régions proches de la Manche demain, où le temps va même se dégrader. Les nuages de plus en plus nombreux dans la journée vont donner quelques averses assez conséquentes d'ailleurs sur le Finistère et le golfe du Morbihan. Des Pays de la Loire au bassin parisien et sur le littoral atlantique, la chaleur qui baisse d'un cran aussi avec 27 à 32 à nos thermomètres sous un ciel là aussi nuageux ponctué de quelques ondées éparses dans la journée. Et puis sur l'intérieur de la Nouvelle-Aquitaine, le centre, la Bourgogne, c'est à partir de la mi-journée que le temps va devenir orageux. Si je passe les orages de ce soir, hein, qui sont en train d'arriver aussi tout de même et qui commencent à refroidir l'atmosphère puisque par endroits, notamment à Saint-Jean-de-Luz, je le disais tout à l'heure, vous avez perdu presque 16 degrés. Alors la canicule, elle persistera demain encore plus à l'est, hein, de l'Occitanie à PACA, Auvergne, Rhône-Alpes, Franche-Comté, Alsace. Là, le ciel sera clair, la chaleur encore d'actualité et puis ensuite les températures seront de plus en plus contrastées et tout rentrera dans l'ordre en fin de journée.
Dit-elle. Merci Valérie Darmon. 18h18, dans un instant une succession lourde à porter. Rodrigo Basilicati Cardin, neveu de Pierre Cardin, hérite d'un empire éparpillé façon puzzle, tellement il y a de licences et de choses vendues. Par où commencer? Nous lui poserons la question. À tout de suite.
Europe Soir Weekend, Pierre de Villeneuve.
Et c'est l'heure de notre interview. Et si je vous dis Pierre Cardin, vous allez me dire que le nom est universel, d'abord parce que le personnage était unique en son genre, mais aussi parce qu'il a créé un empire où la marque est connue dans le monde entier. Pierre Cardin est décédé il y a 2 ans et demi. C'est son neveu, qui travaillait déjà avec lui depuis de nombreuses années, qui hérite de ce groupe, pas que de mode. Rodrigo Basilicati Cardin, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous êtes là parce que l'été approche et parce que commence le 22e festival de Lacoste, l'art de la scène, dans les carrières du château de Marquis de Sade, du 1er au 13 août 2022. On va en parler, bien sûr. Mais parce que c'est sur Europe 1, dans l'émission d'Isabelle Morizet, que Pierre Cardin, votre oncle, a donné sa dernière interview à l'âge de 96 ans. Je voulais qu'on le réécoute, notamment sur l'ambition qu'il avait, sa volonté, sa ténacité, qui ne tenait que par une seule chose, le travail.
Je ne suis pas orgueilleux. J'ai eu beaucoup d'ambition dès le début de ma carrière. Je pense que si on n'a pas d'ambition, on n'a pas de but. Et moi, j'en avais, c'était de réussir.
Pour
une raison d'être. La raison d'exister. Et en même temps, par le fait de mon travail qui m'a donné entière satisfaction. J'ai trouvé un équilibre de santé, de bonheur, de joie et de raison à travers mon travail. Il y en a qui appellent ça du boulot, d'autres qui appellent ça du bonheur. Moi, j'appelle ça être heureux. J'ai tout fait ce que j'ai voulu. En construction, en travail, en rencontre, en voyage, en possession. J'ai eu tout ce que j'ai fait. Par le travail. J'anoblis le travail.
J'anoblis le travail. Voilà ce que disait Pierre Cardin avec Isabelle Morizet. L'émission est bien sûr disponible sur notre site europe1.fr. Ça vous émeut d'entendre votre oncle, Rodrigo Basilicati?
Eh oui, parce que c'est la première fois que je le réécoute après un an et demi avec une voix similaire à quand il nous a quittés. Oui.
On ne va pas entrer dans les détails de la succession parce que c'est trop compliqué, mais c'est vous qui êtes à la tête de cet empire immense qui avait été évalué en 2012 par Cardin à 10 milliards d'euros. 350 licences, 140 pays, des vêtements, des meubles, des cigarettes, de l'alcool, bref, presque tout siglé Cardin. Mmh. Et précisons-le, 100% indépendant. Il n'y a pas un grand groupe de luxe derrière, il n'y a pas un fonds d'investissement. Comment est-ce que vous faites et par où vous commencez?
Non, en réalité, on a commencé déjà avant sa disparition. En 18, il m'a mis à suivre avec 2018. Lui les choses, oui. Mm-hmm. Et c'est vrai que je suivais quelque chose, quelques groupes, quelques parties du groupe à lui, en Italie notamment, et aussi toute la partie festival, la partie culturelle, je suivais déjà. Et après, il y a les relations avec les licences. Donc c'est la grande chose importante dans le groupe, c'est cette relation, et je l'avais comme initiée avant. Et il a décidé qu'à sa mort, il y aurait eu une continuation à la présidence. Et là, il a choisi moi. Mais après, le futur, c'est vrai que 100% autonome, ça c'est vrai.
Et ça va rester comme ça, 100% autonome?
On verra ce que faire la famille en réalité, mais...
Parce que vous êtes plusieurs à décider quand même, il y a une sorte de consortium familial.
Oui, il y a une sorte de consortium et en tout cas tout est encore en construction, c'est pas si rapide hein, de comprendre exactement comment ça se passe.
Mais ça veut dire quand même que le groupe est solide, parce que si vous avez la possibilité financière d'attendre de voir comment est-ce qu'on va faire... Ça veut dire que ça marche d'une certaine manière un peu tout seul.
Oui. D'ailleurs, 70 ans, mon oncle s'est vanté beaucoup de dire que je n'ai jamais utilisé les banques. Donc, pour un prêt. Donc, il a tout fait tout seul. Et chaque fois quand il avait quelque chose de plus, il a réinvesti dans la maison et dans l'immobilier surtout. Et ça fait sa banque personnelle. Et c'est utile maintenant pour satisfaire les héritiers, s'il faut, et comme il faut, voilà, on verra.
Oui, l'immobilier, c'est des châteaux dans toute la France, un restaurant très célèbre, Maxim's.
Maxim's.
Ça aussi, il va falloir faire quelque chose quand même, peut-être le ressusciter, ce grand restaurant.
Dès que j'ai pu, je l'ai mis en norme, je l'ai revitalisé, on sortait du Covid, donc c'était une tâche importante. Et maintenant, je dois dire que ça plaît et la cuisine est bien. Donc, c'est bien, tout est repris. C'est clair que Maxime, ça veut dire aussi une trentaine de licences. Donc, il y a aussi à suivre la partie...
Oui, parce qu'il y a toute une série de produits Maxime.
Gastronomique.
Mais même surtout. De la mode. Parce
oui, c'est vrai. Même de la mode. Mais je dis, ça part de la gastronomie, mais ça arrive à la mode, oui.
Cardin, c'est une histoire. Et pourtant, et pardonnez-moi, c'est vraiment no offense, sans offense... C'est pas une marque très très à la mode. Où est-ce que vous vendez le plus ?
C'est diffusé capillairement un peu dans le monde, il faut dire. L'Europe, ça reste quand même le principal, mais la Chine est fort, très fort. Le pays arabe aussi, le Moyen-Orient. Pas vraiment le pays arabe, le Moyen-Orient, un peu plus loin. Et après, on a le Brésil est fort.
Donc, c'est pas un problème que ce soit pas une marque, j'allais dire, qu'on voit forcément dans les magazines.
Voilà, mais c'est son but. C'est lui qui l'a, quand il a commencé avec le prêt-à-porter, et c'était le pionnier dans ce sens, et quand il a voulu déclencher cette idée de donner la griffe à quelques producteurs, à l'époque, et c'était en 50 et quelques, c'était une nouveauté absolue qui l'a coûté d'ailleurs la sortie de la chambre de la mode, de la haute couture. Lui, il voulait vraiment démocratiser la mode. Donc, c'est son bout final. Ouais. Et moi, je n'ai jamais voulu, dès le début, la repositionner sur le luxe. Lui, c'est la création. Il veut être reconnaissable. On continuera à être reconnaissable. Dans la rue, en voyant une personne, ah voilà, ça c'est du Cardin. Il faut que ce soit comme ça.
Vous en portez d'ailleurs aujourd'hui, alors les auditeurs ne vous voient pas, mais vous avez une veste sans col. Avec,
et voilà, et vous me l'avez tout de suite remarqué.
Mais parce que c'est reconnaissable entre mille.
Oui, parce qu'en plus la coupe des épaules c'est spécial, c'est lui qui l'a inventé, et c'est carré comme ça, ça n'existait pas, ça n'existait plus. Et sans col, c'est vrai, c'est lui qui l'a commencé. D'ailleurs, l'idée est partie de Beatles, quand il a fait ses quatre vêtements.
C'est vrai, il faut le rappeler.
Sans col, oui.
C'est bien Cardin qui a habillé les Beatles, c'est pas forcément une marque anglaise. On parlait tout à l'heure de la banque Cardin qui se situait dans l'immobilier, dans cet immeuble qui est totalement mythique. C'est pour ça que je disais que vous n'aviez pas des vues sur l'Élysée, mais vous aviez la vue sur l'Élysée puisque vous êtes en face au 27 avenue de Marigny, l'immeuble qui fait l'angle de l'autre côté de l'Élysée. Il y a bien sûr des châteaux. Il y a donc cette façon de garder l'argent dans l'entreprise sans avoir appel à banque, alors qu'aujourd'hui, ceux qu'on appelle les licornes, les startups font ce qu'on appelle des levées de fonds à tout va. Et puis, Pierre Cardin tenait des calepins en cuir dans lesquels il notait tout. Il était capable de vous ressortir la recette de telle branche de l'entreprise en telle année. Cette minutie, cette façon de manager qui n'est plus du tout à l'heure du jour, est-ce que vous en avez d'une certaine manière hérité ?
Alors là, elle me l'a beaucoup expliqué. J'ai vu d'ailleurs ces cahiers, c'est magnifique, il y en a des centaines et des centaines en toutes les couleurs. Ça lui permettait de faire des confrontations, de mettre les choses à côté et de voir des années, et même de maîtriser, l'idée de maîtriser. En réalité, tout était dans sa tête. En réalité, c'était le savoir qu'il était écrit, ça lui
donc
plaisait
l'ordinateur,
beaucoup.
C'était lui.
Mais c'est l'ordinateur, c'était sa tête.
Et oui. Vous?
Et alors moi, en 25 ans que je le connais, je commençais un peu à comprendre de plus en plus comment... J'aime beaucoup mémoriser. Je suis ingénieur de formation, donc j'aime beaucoup les chiffres, les choses. Donc je les mets ensemble et je cherche de mémoriser. L'effet de suivre toutes les choses maintenant, et au fur et à mesure, il y aura quelqu'un qui m'aidera dans l'entreprise. Mais pour le moment, c'est en phase de construction. L'effet de signer tous les devis et toutes les factures, ça me permet d'avoir une vision, d'avoir une sensation de masse salariale, de tout. Et surtout, des projets qu'on porte. Et après, il y a un contrôle de gestion, bien sûr, c'est arrivé. Finalement, mon oncle n'aimait pas, parce qu'il ne voulait pas qu'il soit contrôlé, ce qu'il faisait. Mmh. Il le sentait par cœur. Là, maintenant, il faut répondre à un certain nombre de personnes. Il vaut mieux qu'il soit ciblé et soit clarifié.
Même s'il aurait détesté ce mot, c'est en train de se normaliser. Quoi.
Ouais. Oui, normaliser de quelque manière. On reste quand même une petite entreprise. En réalité, Pierre Cardin, c'est
elle est valorisée à combien, cette entreprise quand Parce que les chiffres circulent et voilà, on entend tout et n'importe quoi.
Vous venez de dire qu'il lui évaluait 10 milliards.
En
2012. Mais c'est parce que lui considérait tout le monde Cardin. Pour lui, c'est une grande famille. Et toutes les licenciés, 200 licences on a dans le monde, tous les licenciés, et produits, on a 700 ou 800 des produits différents par licence. Donc, lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il disait, tous ces masses qui travaillent pour moi, ce n'est pas directement suivi par moi, mais ça fait, on peut dire, 10 milliards, c'est vrai, ce n'est pas loin. Mais nous, on travaille sur un pourcentage, parce que nous, c'est ça le secret de son monde.
Et donc,
monde.
La maison l'unicité, Cardin
l'unicité.
Elle-même
oh, il faut la considérer, même pas un dixième. Mais,
un dixième, ça fait un milliard quand même.
Oui, ça fait.
Pardon.
Mais ouais. Même pas, j'ai dit. Je dis que maintenant, il faut reprendre un peu de vous savez, la chose importante que lui faisait, c'est qu'il voyageait le monde. Et il suivait tous ses licenciés, une par une. Et chaque année, pratiquement, on les visitait tous. Et ça veut dire un voyage toutes les semaines, presque. L'effet de faire ça, ça tient le rapport avec eux et l'enthousiasme. L'effet que les derniers 20 ans, 25 ans, il a un peu beaucoup diminué tout ça. Mmh. Il s'est concerné à ces petits voyages. Quand même, il allait toutes les semaines à la côte à restaurer des maisons, des châteaux, des choses. Donc, il adorait. Mais il faisait seulement ce qu'il arrivait à faire physiquement tout seul. Sinon, il laissait tomber. Alors les licences, peut-être, ils sont un peu éloignés de la maison mère, un tout petit peu. Et ça a déterminé un petit shoot qu'il faut reprendre, récupérer.
Alors, puisque vous parlez d'art, évidemment, vous, enfant, vous rêviez d'un autre art, celui de la musique. Vous rêviez d'être ABM et puis finalement, vous êtes RBC. Alors, je vais expliquer aux auditeurs, puisque vous aviez une passion sans limite pour... un pianiste italien mondialement connu, notamment pour ses enregistrements de Debussy, qui s'appelle Arturo Benedetti Michelangeli. En attendant, c'est donc l'art à Lacoste pour ce festival de musique et de théâtre cet été au mois d'août. Quelle est la programmation? Qu'est-ce que vous allez faire pour cette 22e édition?
Mais on a des noms importants cette année. La chose curieuse, c'est que finalement, après 22 ans, de ce festival, il y a une curiosité, il y a les grands stars qui nous cherchent même, qui nous disent qu'est-ce que vous faites cet été, est-ce que je peux essayer ma pièce, une nouvelle pièce. Et là, c'est notre intérêt, de faire des créations, possiblement. C'est difficile maintenant, il faut faire un peu attention, justement dans ces périodes d'assestement,
de stabilisation.
Et la création pure, c'est quelque chose de coûteux, très coûteux. Une production de musical, ça coûte centaines de millions.
C'est ce que faisait Cardin dans son espace Avenue Gabriel.
Oui. Ouais. L'année dernière, on a fait, sur une idée qu'on a discuté, on a fait la danse des galaxies. Là, c'est une création complète avec des danseurs, de chanteurs et un physicien sur scène, des hologrammes, des choses. Mais ça, aujourd'hui, j'ai préféré recevoir des propositions.
Alors, qu'est-ce qui nous attend à partir du 1er août?
Ben, on a Isabelle Adjani et Gérard Depardieu, de grands noms
du théâtre et du cinéma français.
Et en plus, Isabelle Adjani prépare quelque chose sur Marilyn. Le thème, c'est ça, mais Marilyn Monroe, mais en réalité, c'est un échange entre elle et ses pensées et les pensées de Marilyn à la fin de sa vie.
Qu'elle avait déjà commencé à faire à Paris.
Oui, il a commencé là récemment. Et il a extrait, il a pu extraire de la dernière interview de Marilyn, des textes. Et tout ça ensemble, ça fait quelque chose de très mouvant. Et seul sur scène, ça c'est très intéressant. Donc il y a pas mal de seul sur scène cette année. Gérard chante Barbara, Gérard Depardieu, avec Gérard Daguerre, grand pianiste. Et il était déjà sur notre scène il y a 2 ans. Et en plein Covid, donc avec un jeu divisé par deux. Et un mois et demi avant le concert, il n'y avait plus de place. Donc, on a dit, bon, on refait. Si le public demandait, on le fait. Et c'est lui qui s'est proposé aussi. Il a dit, très bien, je viens. Il a très bien vécu. En plus, l'autre fois, c'était avec Pierre. Et donc, il a adoré. Après, on a Thierry Lhermitte avec son spectacle assez sérieux sur l'après-guerre. Après, André Dussolier, Cali. Autour du Women's Show. Après, Broadway Rhythm, c'est quelque chose sur le jazz, avec des tip-tap, des champions, et Saint-Exupéry, Gros Magari.
En tout cas, une belle programmation au château de la Casse, le château du Marquis de Sade, quand même, faut-il le rappeler, dans cette belle région du sud de la France. Merci beaucoup, Rodrigo Basilicati Cardin, d'avoir été avec nous, d'avoir passé ce moment et de nous expliquer comment vous faites avec ce grand bateau, je vais dire bateau ivre, mais il n'est pas si ivre que ça, puisqu'il fonctionne tout seul, mais quand même assez difficile à manœuvrer. Merci d'avoir été avec nous dans un instant. Ça fait débat, votre rendez-vous du samedi soir, 18h35. Vous êtes sur Europe 1.
Europe Soir Weekend. Pierre de Villeneuve.
Avec nos débatteurs du soir, William T., président du think tank Luminaire. Bonsoir, William.
Bonsoir.
Bonsoir à Jean-Yves Le Bas-Orgnon.
Bonsoir.
Beaucoup de thèmes, j'allais dire, européens. Évidemment, nous sommes ce qu'on appelle en silence médiatique avant le second tour des législatives demain. J'allais dire beaucoup de thèmes européens parce que effectivement la guerre en Ukraine continue, 115e jour, avec Volodymyr Zelensky qui est sorti de Kiev pour la première fois depuis longtemps pour aller dans le sud du pays sur la route d'Odessa, là où les soldats ukrainiens tiennent encore la ville. Mais évidemment, Odessa est dans la stricte visée des forces russes qui continuent à pilonner le Donbass. Ils avaient promis un Grozny. Le Grozny est arrivé. Et Vladimir Poutine, d'ailleurs, s'est montré dans cette espèce de Davos russe, si j'ose dire, sur les chaînes de télévision, disant plusieurs choses. La première, c'est que les sanctions économiques... il continue à faire le bras de fer avec les sanctions économiques européennes. Il continue à faire le bras de fer sur le pétrole, sur le gaz et sur cette crise alimentaire mondiale qu'il tient d'une certaine manière dans ses mains. Ce rapport de force, j'espère, et vous allez peut-être me contredire, Jean-Yves Le Born, j'espère qu'il n'y a pas une sorte de lassitude de voir toujours les mêmes images de Vladimir Poutine, de Volodymyr Zelensky, et qu'il y ait une sorte d'inertie alors que la guerre continue et continue à faire des morts.
Bien sûr, la guerre continue et s'agissant notamment du passage éventuel de cargos qui pourraient emmener de la nourriture, je pense que là, il y a des peuples, et ils sont assez nombreux, je pense aux peuples africains, qui ne sont pas du tout, eux, dans l'indifférence. Mmh. Et ce n'est pas seulement par solidarité avec ceux qui souffrent et qui sont dans la belligérance, mais aussi parce que ce blocage d'exportation des denrées alimentaires est pour eux une condition de survie. Alors ça se rapproche d'ailleurs de l'idée que les Russes n'ont jamais cessé d'avoir un regard plein de désir sur Odessa, qui est effectivement l'ouverture de l'Ukraine sur l'exportation. Moi, j'ai toujours pensé, mais les espérances que l'on a ne sont pas nécessairement illustrées par l'histoire, qu'il serait opportun que une solution transactionnelle intervienne. Alors, bien entendu, on n'imagine pas le président ukrainien venir dire « bon, on va négocier et peut-être prendre comme objet de négociation le Donbass ». Mais si j'osais, je dirais...
Il n'y a pas de solution.
Si ce n'était que ça, la paix vaut bien le Donbass.
D'accord avec ça, William T. La paix vaut le Donbass. Bonjour, je vous donne les clés du Donbass et puis on arrête la guerre.
Oui, mais est-ce que maintenant, comme vous l'avez rappelé, on est au 115e jour du conflit, est-ce que les intérêts ne sont pas tellement polarisés
que ce qui était possible il y a maintenant 2-3 mois, lorsqu'on évoquait la question d'un accord, notamment via la Turquie, est aujourd'hui impossible dans la mesure où la population russe est radicalisée. En tout cas, l'opinion publique va demander à Vladimir Poutine des comptes sur son action et donc du coup l'encourage à continuer pour avoir plus et donc du coup aller jusqu'à Odessa. Est-ce que la population ukrainienne, voire européenne, va pas encourager Zelensky à battre la Russie, notamment de la part des intérêts américains qui veulent embourber les Russes en Ukraine comme ils l'ont fait en Afghanistan. Donc est-ce qu'aujourd'hui c'est possible d'arriver sur un accord? Je pense que c'est compliqué. La difficulté qu'on a eue depuis le début, c'est qu'en fait l'Union européenne ou même les chefs d'État de gouvernement de l'Union européenne ont dit il faut défendre l'Ukraine. Mais la question c'est qu'on n'a jamais défini qu'est-ce qu'on voulait en fait en Ukraine et qu'est-ce qu'on voulait comme objectif. Est-ce qu'on devait préserver l'intégrité territoriale de l'Ukraine, notamment sur la Crimée et sur le Donbass, ou est-ce qu'on voulait battre la Russie et conduire la chute du régime de Vladimir Poutine, et qu'est-ce qu'on voulait faire concrètement? Et comme on n'a pas défini d'objectif, et on a mis en place des sanctions sur le point de vue moral et non pas sur le point de vue de la réelle politique, on n'a pas eu d'objectif et donc du coup de stratégie pour arriver à cet objectif. Moi je pense, à contrario de tout ce qui a été dit, c'est que Vladimir Poutine joue plutôt bien sur les différents points. Parce qu'en fait, il a subi des sanctions, mais les sanctions ont conduit à une inflation sur les matières premières, pétrole et gaz, dont il est exportateur, ce qui lui permet en fait d'avoir des devises monétaires pour soutenir son effort de guerre. C'est le premier élément. Sur la question de la crise alimentaire, ça lui permet d'avoir des pays en Afrique, notamment quand lorsqu'on regarde la résolution aux Nations Unies, qui le soutiennent pour ne pas avoir de risque de famine dans leur pays. Et donc, du coup, Vladimir Poutine, d'un point de vue international...
Chacun voit midi à sa porte. Hein.
Bah, en fait,
c'est quand même
ça.
Extraordinaire. Alors que Macky Sall, qui est allé justement voir Vladimir Poutine, est revenu, j'allais dire penaud, mais en tout cas, il n'est pas revenu très, très optimiste pour la suite des événements.
Vous savez, je crois que William Tay dit quelque chose qui est important, c'est la définition des objectifs. Dans cette guerre, il n'y a jamais eu de définition des objectifs. On ne sait pas ce que les Russes veulent. Veulent-ils annexer l'Ukraine? Ça paraît peu probable aujourd'hui, mais au fond, l'idée est encore un peu dans le débat. Veulent-ils simplement, entre guillemets, pour prendre leur vocabulaire, libérer le Donbass? Veulent-ils aller plus loin? Veulent-ils aller jusqu'à Odessa? Veulent-ils...
Et quand vous dites les Russes, c'est les Russes ou c'est Poutine?
Ah, c'est Poutine. Ouais. Bon, bien sûr c'est Poutine. Mais vous avez raison de faire cette distinction, parce qu'elle est importante. Elle est
vous résumez 140 millions d'habitants à un seul homme.
Mais oui, mais bien entendu, parce que c'est la Russie qui est aujourd'hui, en quelque sorte, dans la main de Poutine. Et j'espère bien qu'elle n'y restera pas. Mais ça, c'est aussi quelque chose de plus lointain. Alors, vous disiez aussi tout à l'heure que, finalement, il faut choisir. Est-ce qu'on a choisi de défendre l'Ukraine et jusqu'où et à partir de quel moment faudrait-il soutenir des transactions, des pourparlers, des abandons? J'entends de temps en temps des propos qui consistent à dire que si on n'est pas dans un manichéisme absolu, au soutien total de l'Ukraine, on est... je dirais, en infraction avec l'humanisme. Bien entendu que...
Ça a été reproché à Emmanuel Macron quand il a dit qu'il fallait
Je n'osais pas le dire, compte tenu de la période, mais c'est évidemment ce à quoi je pensais. Et il est évident qu'il y a, dans la position de soutien à l'Ukraine, une sorte de soutien fraternel humain. Voilà un peuple qui souffre, qui est sous les bombes, avec une revendication territoriale dont la légitimité apparaît complètement absurde. Néanmoins, il faut garder la possibilité du dialogue. Néanmoins, il faut, et vous le disiez à juste titre, que l'on ne parle pas de la Russie qui, un jour, sans doute, sous de meilleurs auspices et de meilleurs gouvernants, rentrera dans un contact et dans un dialogue tout naturel avec l'Europe à laquelle elle appartient. Et ce dialogue-là, aujourd'hui, quelle que soit, je dirais, la volonté qu'on a de soutenir l'Ukraine et la solidarité qu'on a avec le peuple ukrainien, cette intention de ne pas rompre avec la Russie me paraît fondamentale.
Alors, William Tay, vous disiez que, d'une certaine manière, Poutine avait bien joué. Et en même temps, dans cette grande réunion, dans ce grand Davos russe qui a eu lieu vendredi dernier, hier et avant-hier, il y a eu quand même plusieurs personnes, notamment la présidente de la Banque centrale russe qui a dit que vis-à-vis des devises, on était quand même allé très très loin, qu'on va être affaibli. Il y a eu ce grand patron industriel qui a dit qu'avec les matières premières, que, alors que Poutine dit on n'importera plus tel... engins, c'est pas grave, on va les construire. C'était pas aussi facile. Donc, il y a quand même, malgré j'allais dire, cette crainte qu'ont tous les Russes vis-à-vis de Vladimir Poutine, il y a des voix qui s'élèvent et qui disent « Monsieur le Président, vous allez quand même peut-être un peu trop loin
». Ils n'ont pas tort, mais en fait, tout dépend de la question de la temporalité des objectifs de Vladimir Poutine. Moi, je pense, parce qu'on a travaillé dessus, on pense que l'objectif de Vladimir Poutine, c'est de faire en sorte que...
C'est le millénaire.
Oui, tout à fait. On pense que l'objectif de Vladimir Poutine, c'est que l'Ukraine ne rentre pas dans le giron américain, et donc celui de l'OTAN. La seule question qu'on ne sait pas, c'est est-ce que pour Vladimir Poutine, rentrer dans l'Union européenne induit implicitement de rentrer dans le giron occidental et donc celui de l'OTAN. Ça, on ne sait pas. Mais pour l'instant, est-ce que l'Ukraine est en état de rentrer dans l'OTAN? Est-ce que les autres pays vont accepter qu'ils rentrent dans l'OTAN, notamment la Turquie qui dira non et qui mettra donc du coup son veto? Est-ce que d'autres pays européens comme la France et l'Allemagne ne mettront pas leur veto aussi? Vraisemblablement, aujourd'hui, ils ne l'accepteront pas pour ne pas froisser Vladimir Poutine et pour ne pas froisser la Russie. Donc pour l'instant, il a aussi son objectif. Si par cas la guerre dure, et notamment jusqu'à la fin de l'année et en début d'année prochaine, si on traverse par exemple aux horizons d'avril 2023, là ce sera plus compliqué pour lui dans la mesure où il ne pourra plus bénéficier de ses exportations de gaz, de ses exportations de pétrole, qui du coup implicitement, notamment avec les mesures monétaires qui ont été prises par la banque centrale américaine et qui va être suivie par la banque centrale européenne, vont baisser le coût de l'inflation et donc du coup vont baisser sa question de devise. Tout est une question de temporalité. Si le conflit se termine à la fin de l'année, vraisemblablement, on arrivera sur ce que décrivait Jean-Yves Le Borne, c'est-à-dire que les capitales européennes vont soutenir la transaction, vont demander à Zelensky d'abandonner le Donbass, et il aura un couloir du Donbass jusqu'à la Crimée, et donc du coup, implicitement, il aura à peu près réussi son objectif à court terme. Si par cas on dépasse l'année, c'est plus compliqué pour lui dans la mesure où je ne suis pas sûr qu'il ait les réserves monétaires pour continuer l'effort de guerre. Tout dépend de la temporalité.
Et pendant ce temps, vous savez, c'est comme dans les bandes dessinées, et pendant ce temps, trois petits points, vous avez les dirigeants occidentaux, Olaf Scholz, Emmanuel Macron, le président Ioannis, qui est le président roumain, et Mario Draghi, qui sont arrivés à Kiev. Un jour plus tard, c'était le tour de Boris Johnson. Là encore, il y a deux lectures sur ces déplacements. Certains disent qu'il y a effectivement des volontés électoralistes. Et puis d'autres disent, non, quand même, le symbole, le fait que l'Europe est là, aux côtés des Ukrainiens qui, rappelons-le quand même, cette semaine, ont eu le premier go, j'allais dire, le premier feu vert pour effectivement pouvoir candidater à l'Union européenne. On sait que ça va être long, mais ça a été quand même un premier, je pense, soulagement pour les autorités de Kiev. C'est un symbole aussi pour dire que l'Europe est là et pas forcément les Américains, Jean-Yves Le Borgne.
Je dirais heureusement, parce que la problématique qui est celle de Poutine, qui, disons-le, a une pensée soviétique, qui se préoccupe des contreforts de l'Empire soviétique.
Une nostalgie même soviétique.
Oui, une nostalgie sur laquelle il fonde une crainte avec l'armement américain, la menace sur Moscou, enfin... tous ces fantasmes qui appartiennent à un autre temps. Alors, il est heureux que l'Europe se manifeste, je dirais, comme son véritable voisin. Alors, on peut espérer que, d'ailleurs, cette pensée soviétique changera quand peut-être les générations vont aussi un peu changer. Maintenant, on a là un dirigeant russe qui est un homme du temps soviétique, qui s'est terminé il y a quand même 30 ans. Bon, de telle sorte qu'on peut espérer que les suivants seront portés par autre chose. Je n'ai pas d'idée de l'âge de ceux que vous citiez tout à l'heure qui esquissent timidement quelques critiques sur les conséquences de la politique poutinienne.
Des gens qui ont 50-60 ans.
Hein. Bon, 50-60 ans,
qui ont connu
c'est encore trop. Je dis cela malgré mon grand âge personnel, mais nous sommes dans un pays qui a sa tradition, qui a son continuum. Nous ne sommes pas dans une situation de rupture. La Russie, ancien empire soviétique, est dans une situation de rupture. Et s'il faut ménager la Russie, ce qu'aujourd'hui on ne peut pas dire sans apparaître comme solidaire de l'agresseur, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de manifester le soutien à l'Ukraine, tout en disant demain, la Russie, avec un autre pouvoir, avec une autre inspiration, pourrait peut-être abandonner ses fantasmes de menaces sur les contreforts de l'Empire.
William Tess, c'est intéressant ce que dit Jean-Yves Le Borne sur l'âge des personnes qui, justement, pensent ou ne pensent pas comme Poutine. Vous, au millénaire, vous avez des correspondants à Moscou. Vous entrez en contact
On a posé des questions, notamment parce qu'il y avait un sujet sur la question de la succession de Vladimir Poutine, éventuelle, parce qu'on avait raconté à un moment qu'il était malade, qu'il avait éventuellement un cancer. La difficulté que posera cette question de la succession de Vladimir Poutine, c'est qu'il n'y a pas de... La succession, ce qu'on appelle, est ouverte. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de successeur désigné. Donc, du coup, les gens batailleraient, en fait, pour prendre la place de Vladimir Poutine. quand on observe la situation, en fait, ce qu'on voit, c'est comme les gens bataillent pour la succession de Vladimir Poutine, ils vont du coup se reposer sur plusieurs indicateurs pour être soutenus, l'oligarchie, l'opinion publique, les médias, les personnes d'influence, etc. Mais comme ils sont tous pour la guerre, vraisemblablement, en fait, les personnes qui prennent la succession de Vladimir Poutine feraient de la surenchère sur Vladimir Poutine pour reprendre son héritage. Donc, on n'est pas sûr que le renverser le régime de Vladimir Poutine, c'est forcément une bonne idée.
Vous êtes pessimiste.
Non, mais on essaye d'être réaliste.
Non, mais regardez, je vais
vous dire pourquoi est-ce que c'est pas bon de tenir un discours optimiste. On va prendre je parlais de la question de la polarisation du conflit. Quand on a montré les images de ce qui s'était passé en Ukraine, on a tout de suite demandé aux différentes personnalités politiques ou influenceurs ou les commentateurs, qu'est-ce que vous pensez des images en Ukraine? Est-ce que c'est des crimes de guerre? Tout le monde a dit c'est des crimes de guerre, quasiment ça rappelait la Seconde Guerre mondiale. Qu'est-ce que ça conduit d'un point de vue moral si vous dites ça? Ça veut dire que normalement l'Union européenne doit aller se battre pour défendre les Ukrainiens. Et c'est comme ça qu'on arrive à la polarisation du conflit. Alors que normalement, les conflits normalement sont pas traités sur la place publique. Normalement, ils sont traités dans les couloirs.
Oui, mais
et si par cas, on est arrivé il y a un mois, deux mois, on aurait pu arriver à une résolution du conflit qui était on cède le Donbass, on cède la Crimée, et puis on fait en sorte que l'Ukraine soit neutralisée.
Vous nous parlez de l'Ukraine comme si vous la dirigiez. Hein, on cède le Donbass.
Zelensky avait dit oui il y a deux, trois mois.
Je ne pense pas qu'on puisse imaginer que le soutien à l'Ukraine est... La condamnation du comportement de la Russie sous Poutine implique l'entrée dans la belligérance. Et c'est toute cette nuance qui fait la délicate position d'un certain nombre de grands pays européens, à commencer par le nôtre. Et puis, je pense que s'il y a un jour, et il y aura nécessairement un jour, une succession à Poutine, espérons quand même que les grands moyens de communication, les médias, apportent à travers le monde des images qu'on ignorait jadis, notamment du temps de l'Union soviétique. Et si au lieu que ce soit quelque oligarque inspiré lui aussi par l'Empire soviétique, il y avait une sorte de poussée que l'on voyait sortir de la terre russe comme les fleurs du printemps, un goût pour la démocratie. Pourquoi n'envisagez-vous pas ?
Mais il n'y aura pas. Il n'y aura pas, parce que regardez ce qui s'est passé
pas
quand...
Pas tout de suite.
Mais regardez ce qui s'est passé quand Poutine prend le pouvoir après Boris Yeltsin. Quand Poutine prend le pouvoir après Boris Yeltsin, qu'est-ce qu'il fait? Il enclenche une guerre pour légitimer sa position de nouveau président de la Fédération de la Russie, pour s'imposer auprès de l'opinion publique russe et montrer qu'il est un homme fort. Donc le prochain président de Russie...
Vous parlez de la Tchétchénie.
Tout à fait. Mmh. Si Vladimir Poutine tombe, il y aura forcément quelqu'un d'encore plus radical. Et c'est pour ça que nous, on s'est renseignés, parce qu'il y a eu un débat et la question a été toujours posée, parce qu'on prend le point de vue français, occidental et européen de l'Ouest. Et donc du coup, on se demande... C'est le scénario américain qui disait, si on fait tomber le régime de Poutine, il y aura quelqu'un de sympathique qui sera ouvert à la démocratie. Vraisemblablement, non.
Ce que je constate quand même entre vous deux, c'est qu'il y en a un à ma droite, Jean-Yves Le Borne, qui croit à la diplomatie encore, et l'autre qui n'y croit plus.
Non, mais j'y crois au rapport de force.
Ben, vous croyez donc plus à la diplomatie?
Moi, je pense que Poutine nous embarque dans une question de rapport de force, et que pour répondre à Poutine, il faut enclencher un rapport de force. C'est-à-dire qu'il faut frapper.
Est-ce que ça vous rendez compte que militaire?
Non, mais ça veut dire de la dangerosité.
Il faut écarter aucune solution. Moi, je pense que ce qui s'est passé sur la question ukrainienne a été résolu. Je pense que Poutine a choisi cette date précisément et qu'il était préparé depuis très longtemps. Lorsque vous regardez l'évolution des actifs russes depuis 2014 et le début de la guerre
justement,
en Crimée,
c'est tout ce qu'il attend.
Tout ce qu'il attend.
Et c'est tout ce qu'il attend, c'est qu'on lui fasse.
Je vais y arriver. Pourquoi est-ce qu'il a choisi cette date précisément? Parce qu'il y avait des élections en France. Présidentielles notamment, qui sont passées. Il y avait Olaf Scholz qui venait de débarquer en Allemagne et Boris Johnson qui avait des difficultés internes. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucun dirigeant européen capable de soutenir l'Ukraine. Et donc, du coup, il a choisi cette date précisément sur la question du rapport de force. La question essentielle, et Poutine l'avait mis lors d'une conférence de presse avec notre chef de l'État, notamment en février dernier, il avait posé la question suivante au peuple français. Il avait dit, est-ce que les Français, les Allemands et les Britanniques veulent une guerre avec la Russie? Normalement, les chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne auraient dû rétorquer par la façon suivante. Est-ce que les Russes veulent une guerre avec les peuples européens? Et si par cas, il y avait une menace d'une guerre, peut-être que Poutine aurait reculé. Et c'est notamment le scénario pensé par certains chefs d'État.
La question, c'est la dangerosité de votre raisonnement.
Mais le monde est comme ça, monsieur.
Il faut aller jusqu'à la guerre parce qu'on en menace et que c'est peut-être le seul moyen d'avoir la paix. Si vis pacem parabellum, disaient les Romains. Mais je pense qu'il est raisonnable, même si le rapport de force est exactement un peu partout dans le monde et entre les peuples, qu'il faut, tant que cela est possible, privilégier la diplomatie et les discussions entre peuples.
Moi, je ne dis pas qu'il ne faut pas de diplomatie, mais regardez ce qui s'est passé pendant la guerre froide. Pourquoi est-ce que les deux parties n'ont pas enclenché lors de le feu nucléaire de la crise de Cuba. Parce que chacun avait peur de l'autre et chacun va enclencher ce qu'on appelle une surenchère avant que les deux parties reculent. Ce qu'il fallait faire vis-à-vis de Vladimir Poutine, c'était lui montrer qu'il avait plus à perdre en enclenchant un conflit avec l'Ukraine plutôt que de l'enclencher. Actuellement, ce que lui pense, c'est de se dire « il vaut mieux continuer le conflit parce que j'ai trop à perdre à arrêter le conflit, parce que je suis menacé de destitution si par cas je perds le conflit et parce que je perdrai le peu que j'ai engagé, donc du coup mes pertes militaires, mes pertes territoriales et des pertes financières. » Ce qu'il faut conduire à Vladimir Poutine, ce qu'il faut lui montrer, c'est de dire qu'il a plus à perdre en continuant le conflit plutôt qu'à le continuer. Tant qu'il ne changera pas d'optique, vous pouvez aller négocier, vous pouvez engager des appels avec lui, il ne changera pas d'avis. Il changera d'avis uniquement lorsque la situation aura changé. Et pour qu'on conduise à une situation changée, il faut changer la donne diplomatique. C'est pour ça qu'il faut engager une nouvelle action. Effectivement, le fait que les chefs d'État et de gouvernement européens soutiennent Zelensky peut montrer quelque chose. Mais est-ce que la donne change véritablement en Ukraine? Est-ce qu'ils reçoivent plus d'armements, etc.? Moi, je pense notamment que si le rapport de force est équilibré entre l'Ukraine et la Russie, notamment en donnant des armes supplémentaires, en formant et en envoyant quelques troupes ou quelqu'un soutien de quel que ce soit, le rapport militaire changera et peut-être que le rapport diplomatique changera. Tant qu'on ne changera pas le rapport militaire et économique...
Qu'est-ce que vous proposez? Qu'on aille poser une bombe au Kremlin? Pardonnez-moi de cette figure de style pas très habile, mais...
De toute façon, c'est une question...
C'est un bon résumé qui montre que votre raisonnement fait peur, pardonnez-moi.
Mais le monde fait peur, monsieur. Le monde fait peur. Quand vous regardez les discours de Xi Jinping ou les discours de Poutine, ils font peur.
Vous estimez qu'il faut aller jusqu'à la belligérance parce que c'est à cette condition-là qu'on aura la paix. Je suis désolé, mais c'est ce que vous nous avez dit.
Non, juste en dessous. Moi, ce que je dis, c'est justement, je précise, j'ai pas dit qu'il fallait envoyer les soldats français, allemands et britanniques. Il faut dire à Poutine... en fonction de nos intérêts, c'est pour ça que je parlais de la définition des objectifs, si on est prêt à accepter la perte du Donbass et de la Crimée, éventuellement jusqu'à Odessa, effectivement, on n'envoie aucune troupe, de toute façon, ces territoires sont déjà perdus. Si on considère qu'il faut préserver l'intégrité territoriale de l'Ukraine, est-ce que Poutine acceptera de perdre ces territoires-là? Donc il faut changer le rapport de force. Pour que Poutine change le rapport de force, il faut qu'il y ait une menace qui soit pas économique, parce qu'on a vu qu'il succombait pas aux menaces économiques.
Laquelle? Parce que on n'arrive pas
militaire.
À appeler un chat
militaire.
Un chat.
Militaire.
Vous voulez pas envoyer des soldats, mais vous voulez faire une menace militaire.
Mais c'est quoi,
ça
militaire?
Se manifeste comment alors?
Vous pouvez bombarder les territoires. Soutien
par
aérien.
L'aviation, ok.
Par l'aviation, par la marine aussi éventuellement.
Commandant Le Borgne, par la marine.
Le marin ne décide pas du bombardement, c'est une décision du gouvernement. Et vous savez, vous qui êtes comme moi officier de marine, que finalement, quand on dispose, ce qui est le cas de la marine, d'une arme redoutable, puisque l'arme nucléaire est celle de
si
nos sous-marins,
c'est le début de la fin.
C'est une position avant tout politique. Alors, c'est celle que défend William Tay. Pour ma part, je ne la partage pas.
Cela dit, il y a eu des frappes marines en mer Noire sur des bâtiments russes par la marine ukrainienne et par des troupes au sol également. Donc, il n'y a pas forcément l'arme à laquelle vous pensez tout de suite.
Oui, bien sûr.
Voilà. Donc,
De toute façon, c'est pour ça que je propose ces scénarios. La difficulté, c'est que moi, je ne connais pas actuellement la position réelle des capitales européennes. Je ne sais pas s'ils veulent garder l'intégrité territoriale de l'Ukraine.
Dieu nous garde de vous mettre un treillis et d'armement, parce que je pense que vous feriez un peu de dégâts. Merci beaucoup, William Tay, président du think tank Le Millénaire, et à vous, Jean-Yves Le Borgne. Dans un instant, le journal de Sophie Tussaud. Et puis, on se posera cette question juste après. Qu'est-ce qu'il faut manger quand il y a la canicule? Et puis, à quelle heure? À tout de suite.
Europe Soir Weekend.
Pierre de Villeneuve.
Et avant notre débat littéraire sur Céline, place à nos assiettes. C'est important à 19h17 avec le médecin nutritionniste Arnaud Cocolle. Bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. On va essayer de voir comment et combien on peut manger pendant cette canicule de façon à rester léger, entre guillemets, et à contrario de ne pas mourir de faim. Je vais prendre les questions dans l'ordre si vous le voulez bien. D'abord, évidemment, on nous dit boire de l'eau. Alors, boire de l'eau, moi, je veux bien, mais est-ce qu'il y a une façon de boire de l'eau? Est-ce qu'il faut boire de l'eau à température? Est-ce qu'il faut boire de l'eau fraîche? Est-ce qu'il faut, comme le font, par exemple, certaines tribus dans le désert, boire chaud pour avoir moins chaud? Et est-ce qu'il faut boire que de l'eau, pas d'alcool, des boissons gazéifiées, le sucre? Comment est-ce qu'on fait pour boire d'abord?
Beaucoup de sujets. Alors, ce que font les peuplades dans le désert, ils ont tout à fait raison.
faut mieux boire à température ambiante. Donc, pourquoi
pas les trucs glacés, quoi.
Non, pas les trucs glacés, parce que votre organisme, à ce moment-là, va fournir un effort supplémentaire calorique pour mettre la température du liquide glacé à température ambiante, c'est-à-dire à 37 degrés.
Qu'est-ce que c'est un effort calorique ?
Donc, vous allez dépenser des calories à ce moment-là, c'est-à-dire donc fournir de l'énergie pour faire monter la température du liquide.
C'est comme une chaudière, en fait, le corps.
C'est comme une chaudière, ouais. C'est la thermogénèse, c'est pareil, la thermodynamique qui est appliquée au corps. Donc, c'est tout simple. Donc, à un certain moment, si vous mettez quelque chose qui est à température en dessous de votre température interne, il faut faire un effort pour que ça rejoigne la température interne.
Quantité à la fois, est-ce qu'il faut d'un coup boire un litre d'eau ?
Il n'y a pas de règle. Moi, d'accord. J'ai des patients qui ne boivent pas suffisamment. Donc, ça, c'est vrai. Il faut surveiller la couleur de vos urines. Ça, c'est un truc classique que beaucoup de gens ne font pas. J'en discutais avec un chauffeur de taxi juste à l'instant. Et en fait, il faut regarder nos urines. Parce que si les urines sont trop foncées, c'est un signe, de toute façon, comme quoi vous ne buvez pas suffisamment. Donc, il ne faut pas attendre d'avoir soif non plus. Si vous attendez d'avoir soif, il est trop tard. Donc, précédez ça. Donc, il n'y a pas de règle. Moi, personnellement, quand je passe à table, de temps en temps, je prends vraiment 3-4 verres avant de commencer à manger. Déjà, ça me limite dans mon appétit, parce que je vais manger moins de calories, parce que je vais peut-être me venger sinon sur le pain, des choses comme ça. Et donc, ça me permet, à ce moment-là, des sensations que je peux rencontrer dans mon organisme, qui peuvent être des sensations de soif, que je peux confondre avec des sensations de faim. Vous voyez ?
Donc l'eau, ça permet la satiété d'une certaine manière.
N'oubliez pas que les deux tiers du poids du corps, c'est de l'eau. Ça, il ne faut jamais oublier ça. D'accord ? Donc les gens pensent, j'ai les os lourds, c'est pour ça que j'ai pris du poids, ça vous laissez tomber. Ça, c'est les bêtises, c'est le café du commerce. D'accord ? Le squelette, c'est 2 à 4 kilos, c'est tout. Et par contre, quelqu'un qui fait 70 kilos, il fait 45 kilos de flotte.
On a une sensation, j'allais dire, d'être plus désaltéré quand on boit de l'eau pétillante.
Oui, alors ça dépend du... moi, je pense que si vous tolérez l'eau pétillante, pourquoi pas. Ça permet d'ailleurs la digestion. Il y a des eaux médicales, c'est des eaux médicinales. Les eaux minérales sont des eaux qui étaient sur prescription médicale au départ. Donc,
le coca aussi, c'était un médicament au début.
Oui, le coca était un médicament au départ dans les pharmacies, absolument. Qui venait de France d'ailleurs au départ. Parce que c'est les Américains qui nous ont piqué la recette. Comme le gin.
Bon, alors le gin, pas en période de canicule, mais on va y venir. Alors justement, mais finalement, ça ne change pas grand-chose, que ce soit de l'eau plate ou de l'eau pétillante. Ça désaltère de la même façon.
Oui, alors évitez les eaux salées, c'est-à-dire qu'il y a des eaux toujours minérales, qui sont très connues. Il y a des stations thermales comme Vichy, par exemple. L'eau est extrêmement salée, donc c'est du chlorure de sodium à ce moment-là. Ce n'est pas tout à fait ce qu'il vous faut. Après, quand vous faites un effort, si vous êtes, par exemple, Roland Garros vient de finir, au bout d'un certain temps, quand vous faites un effort soutenu avec la canicule, il faut absolument des eaux qui vous fournissent aussi des ions, c'est-à-dire des minéraux, parce que vous allez perdre avec la sueur, vous allez perdre du sel, vous allez perdre du magnésium, du potassium, etc. Donc, il faut supplémenter à ce moment-là. Il y a des eaux qui peuvent être intéressantes. Mais sinon, pour le
Kidam... Donc, il faut surveiller le maximum de magnésium.
Oui, avec le sodium qu'on peut perdre également et le potassium qu'on peut perdre. Donc ça, c'est des eaux au bout d'un certain temps. C'est-à-dire, par exemple, quand il y aura les JO à Paris 2024, à ce moment-là, on va prescrire des eaux particulières pour les sportifs, évidemment, de haut niveau.
Dernière question sur le liquide. Pas d'alcool en période de
canicule ? Non, vous évitez, parce que si vous prenez de l'alcool, en fait, ça va vous déshydrater. Donc moi, je suis complètement stupéfait sur les terrasses de café de voir le nombre de jeunes qui boivent des bières, par exemple, des choses comme ça. C'est absolument dramatique. Ce n'est pas une boisson qui rafraîchit en période de canicule. Donc que vous preniez ça à distance, mais en période de canicule, c'est la boisson, c'est l'eau. Évitez le café et le thé également, qui sont des boissons qui sont diurétiques quand vous en abusez. Donc un petit café, pourquoi pas, mais prenez pas plusieurs cafés dans les journées parce que vous allez aller aux toilettes plus souvent et vous déshydrater.
On en vient au solide, dans l'assiette. Et avant de parler de la quantité ou de ce qu'on va manger, est-ce que pendant la canicule, on change le planning ? Ou est-ce que ça reste 3 repas par jour ? Et peut-être, est-ce qu'il faut, j'allais dire, à midi, alors que c'est là où il fait le plus chaud, prendre son repas ou est-ce qu'il faut le décaler ?
Non, alors, il faut vous écouter. Moi, je pense qu'il faut écouter le patient. Et moi, je ne suis pas là avec un dogme en train de dire « Vous avez fait que 2 repas par jour, c'est absolument catastrophique, etc. » On peut manger équilibré pour certains sur 2 repas par jour, comme d'autres ont besoin de 4 repas. Vous voyez, il y en a qui ont besoin de collation. Il n'y a pas de règle, il faut arrêter.
On peut sauter un repas, si on n'a pas faim, on n'est pas obligé de
s'attabler. Oui, non, non. Ouais. Alors on regarde après ce qu'on met le reste du temps. C'est-à-dire que si vous grignotez, là c'est autre chose. C'est-à-dire que vous avez sauté le repas, mais vous venez au grignotage. Alors là, en période de canicule, qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est plutôt les salades froides,
parce que ça va être, c'est plutôt des éléments dans ce cas-là, comme les crudités, qui vont apporter énormément d'eau. Le concombre, c'est plus de 90% d'eau. Vous voyez, vous prenez le poivron, pastèque, melon, etc. Donc, vous allez sur ces aliments-là, parce que quand c'est cru, il y a plus d'eau que quand c'est cuit, vous le savez très bien. Donc, à ce moment-là, si vous faites cuire des carottes, il y aura moins d'eau que si vous prenez votre carotte crue.
Moi, je veux bien, docteur, mais on nous dit justement que si on mange tout cru, ce n'est pas non plus très très bon pour l'estomac, parce que l'estomac travaille plus.
Oui, mais quand vous mangez cru, moi je milite pour la mastication. Nous mangeons trop mou dans notre société.
Donc, nous mangeons trop mou, c'est-à-dire
oui, le plat préféré des Français, c'est le hamburger. Le hamburger, c'est du pain de mie la plupart du temps avec une viande hachée. Vous voyez, vous avez tendance à faire des grosses bouchées. Donc le fait de manger du cru, de l'aliment cru, ça vous oblige à mastiquer, parce que sinon vous allez vous étrangler. Vous allez faire des grosses bouchées qui, à ce moment-là, vont être pénibles à digérer. Donc, le fait de broyer les aliments, ça va vous libérer tous les nutriments déjà en bouche. Et votre cerveau va commencer à préparer l'arrivée des nutriments, c'est-à-dire prévenir le tube digestif de l'arrivée des nutriments. Comme je dis à mes patients, votre intestin grêle et votre gros côlon ne sont pas équipés de dents. Donc, vos dents, ça vous sert à quelque chose. Donc, vos dents, vous devez les mobiliser et broyer les aliments en bouche des deux côtés.
Donc, du cru,
oui.
Un peu moins de cuit.
Oui, en période de canicule, oui.
On n'a peut-être pas forcément non plus d'être au fourneau.
Et dans ce cas-là, des viandes plutôt maigres, dans ce cas-là, vous voyez, du poulet, des choses comme ça, qui ont plus d'eau. Vous voyez, donc
le poulet
poisson.
A plus d'eau, par exemple, que le bœuf ou le porc.
Oui, voilà. Et le poisson aussi, ça peut être intéressant. Les œufs aussi, qui sont riches en eau.
Et le sucre?
Le sucre, on évite, parce que c'est pas évident. Ça va être un surcroît. Alors, vous évitez surtout les boissons sucrées, c'est-à-dire les jus de fruits, des choses comme ça, parce qu'il va y avoir...
Même si c'est naturel.
Même si c'est naturel, il ne faut pas en abuser. C'est-à-dire limiter la quantité. C'est-à-dire un jus de fruits, ça peut être excellent. Alors, essayez de le savourer d'ailleurs en bouche comme si c'était un grand cru. Moi, je pense que ça, c'est important parce qu'il y a des gens qui boivent ça comme si c'était... Non, il y a des grands crus dans les jus de fruits. Essayez de le savourer, mais n'en abusez pas parce que vous n'allez pas vous réhydrater forcément. Vous allez apporter beaucoup de sucre et ce n'est pas forcément ce qu'il vous faut.
Et les sucres lents, c'est-à-dire toutes les pâtes, etc.
Ça nous permet de tenir, d'avoir une satiété. Alors, c'est sûr qu'il n'y aura pas beaucoup d'eau parce que là, les féculents, pour que ça soit mieux digéré, évidemment, il faut les faire cuire la plupart du temps. Donc, dans ce cas-là, vous perdez un petit peu en eau. Mais ça peut être intéressant pour la satiété, éviter les fringales.
Est-ce qu'il y a une façon de regarder son assiette? Est-ce que parce qu'on a préparé un plat plus longtemps,
oui,
on a plus d'appétit, plus de... Est-ce que le fait d'avoir des trucs tout prêts, qu'on mange en 5 minutes, du coup, ça, c'est peut-être pas forcément bon en termes de canicule?
Non, parce que ce que vous dites, c'est vrai. C'est-à-dire, on voit bien le succès de toutes les émissions, d'ailleurs, avec les cuisiniers, etc. Oui. C'est-à-dire que les gens, ils reviennent vers ça.
Dont Laurent Mariotte, bien sûr.
Laurent Mariotte, que je salue. Et c'est vrai que ça, c'est un plaisir. Et je pense qu'il faut retenir un petit peu cette phrase des Américains. Pour une fois, en cuisine, ils ont quelque chose qui est très bien, c'est « ayez un arc-en-ciel dans votre assiette ». Et je pense que ça, c'est très bien, on devrait communiquer là-dessus, c'est-à-dire mettez des couleurs dans votre assiette. Et là, on est en période où on peut mettre des couleurs. Donc mettez des framboises, mettez du melon, mettez de la pastèque, donc du rouge, du violet, des myrtilles, etc. Mettez des œufs, etc. Ayez des couleurs. Plus vous aurez des couleurs, plus vous aurez des antioxydants, vous allez vous faire du bien.
C'est-à-dire que le mental peut jouer aussi?
C'est très important. Si c'est joli, je veux dire, ça va être joli aussi pour votre cerveau et ça va être joli pour votre intérieur. Prenez soin de vous. L'écologie, on parle beaucoup d'écologie actuellement. L'écologie, ça commence par soi-même. Respectez votre corps. À l'intérieur de notre corps, il y a le microbiote. Vous savez, on parle beaucoup de la flore digestive qui est malmenée par notre alimentation manufacturée, ultra transformée, etc. Et aller vers des couleurs, etc., des saveurs qui soient naturelles, locales, de saison, d'accord ? Donc là, récemment, je voyais du raisin qui venait de Chili, c'est pas la peine de prendre ça. Je veux dire, attendez la saison. Et quand la saison arrive, moi j'adore le melon par exemple, je suis content actuellement parce que le melon, ça y est, il arrive. Donc c'est pas la même saveur que si vous faites venir de l'autre bout du monde.
Dernière question, et je sais que vous êtes nutritionniste et pas forcément tabacologue, mais est-ce que c'est grave ou c'est plus grave pour aussi en période de canicule de fumer?
De toute façon, fumer, moi en tant que médecin, je ne peux pas vous dire que fumer c'est bon pour la santé.
Non, mais est-ce que la canicule aggrave?
Je ne peux pas, pas dire ça, pas forcément. Donc, si
vous voyez,
je pose
des questions candides. Hein.
Oui, oui, mais il faut.
Chacun son métier. Hein.
Mais il faut poser des questions candides.
C'est ça.
Il faut cultiver son jardin, comme disait aussi
j'allais dire, c'est pas Corneille, mais c'est du coup celui qui a écrit Candide, c'est-à-dire Voltaire.
Voltaire. Voilà. Et ben voilà. Et ben tout est dit. Merci beaucoup, voilà. Arnaud Cocolle. On regardera notre assiette avec, comme vous l'avez dit, un peu plus de couleurs parce que ça fait du bien au moral et puis ça permet aussi de mieux savourer. Faites-vous du bien. Nous dit le médecin nutritionniste Arnaud Cocolle dans un instant. Une autre forme de cuisine, la littérature. On parle de Céline, à tout de suite.
Europe Soir Weekend, Pierre de Villeneuve.
Et nous sommes ensemble jusqu'à 20h et je tiens dans les mains, dans cette publication blanche de Gallimard, ce livre intitulé « Guerre ». Il y est écrit juste en dessous « Édition établie par Pascal Fouché » avant-propos de François Gibault. C'est un livre signé de Louis-Ferdinand Céline. « Guerre », le Céline oublié, publié dernièrement par les éditions Gallimard, fait partie des meilleures ventes de livres actuellement. Et la question, elle revient une fois de plus, faut-il lire Céline ? Peut-on lire Céline ? Bonsoir à Frédéric Vitoux.
Bonsoir.
Vous êtes écrivain, critique littéraire, membre de l'Académie française. Bonsoir à Annick Durafour. Bonsoir. Vous êtes agrégé de lettres, spécialiste de l'histoire de l'antisémitisme et du racisme. Alors évidemment, cette question, à tort ou à raison, elle revient. Chacun a son point de vue là-dessus. C'est extrêmement difficile de dire oui ou non. Donc évidemment, notre débat sera passionnant. De savoir justement quels sont les arguments pour et les arguments contre. On dit, faut-il lire Céline de la même façon qu'on pourrait dire, est-ce qu'on peut encore regarder un tableau de Renoir ou écouter du Wagner ? Mais évidemment, parce que, peut-être parce que notre, parce que Louis-Ferdinand Céline est un écrivain français, on a plus de j'allais dire, de proximité avec lui. Est-ce que, d'abord, Frédéric Vitoux, vous qui êtes, j'allais dire, un spécialiste de Céline, même si ça... En tout cas, vous êtes beaucoup intéressé à cet écrivain. Qu'est-ce que ça vaut, ce Guerre ? Est-ce que c'est un bon cru ou un mauvais cru ?
Ce n'est ni un bon cru ni un mauvais cru. Ce n'est pas un cru du tout, en fait. C'est un brouillon d'un essai romanesque qu'il avait écrit, tenté d'écrire, après Voyage au bout de la nuit, juste après, donc oui. Dans les années 33 environ. Il avait une idée d'évoquer en particulier la blessure qu'il avait reçue sur le front en octobre 14 et qui, curieusement, n'est pas évoquée dans Voyage au bout de la nuit. Donc, il avait pensé à une construction dramatique qu'il va partiellement tenir, c'est-à-dire une idée de faire une grande transposition biographique dans ses livres, même si c'est halluciné, si c'est déformé par l'excès du regard célinien. Mmh. Donc, il avait pensé faire un récit de son enfance. Il va le faire, c'est mort à crédit. Puis de l'engagement de la guerre, puis de la blessure, oui. Et aussi, ensuite, ce qu'il va le faire en 1916, c'est son séjour à Londres. En fait, il ne trouve pas son ton avec Guerre. Il y a des choses très belles dans Guerre, c'est un livre, c'est un document passionnant que les Céliniens doivent lire, et c'est évident, on ne peut pas faire l'économie d'un texte comme ça. Je considère qu'on ne peut pas vraiment le considérer comme une œuvre à part entière. C'est un texte qu'il a écrit en 1933, qu'il a laissé tomber, qu'il a laissé chez lui pendant près de 12 ans, qu'il n'a même pas songé à faire taper par sa secrétaire comme une œuvre qui pourrait devenir quelque chose d'autre dans un deuxième ou un troisième état. Donc, je suis un peu réservé sur le fait de considérer Guerre comme une œuvre à part entière. C'est un document littéraire.
Pour les initiés.
Pour tous les amateurs de Céline.
Oui.
Vous disiez, peut-on lire Céline ? Je rappelle simplement que Céline est l'écrivain français du XXe siècle le plus traduit dans le monde.
Oui.
Il n'y a pas un pays au monde qui n'ait pas traduit Céline, même en hébreu. Donc, la question n'est pas de savoir si on lit ou si on ne lit pas Céline, savoir si on le considère comme une œuvre ou comme un document qui enrichit la connaissance de Céline.
En tout cas, vous serez d'accord que si on veut, si on n'a jamais lu de Céline, il ne faut pas commencer par ça.
Non, il faut mieux commencer par les grands classiques, peut-être Voyage et Mort à crédit, puis on peut en discuter à l'infini.
Annick Durafour, vous avez lu Guerre ?
J'ai lu Guerre aussi.
Qu'est-ce que vous en avez pensé ?
Écoutez, je suis très proche de Frédéric Vitoux. J'ai été étonnée un peu du concert journalistique, de la réception, avec le mot chef-d'œuvre qui revenait tout le temps. Mmh. Et manifestement, non, on ne peut pas dire que c'est un chef-d'œuvre. On voit que c'est un texte qui n'est pas très travaillé. Et puis Céline avait 10 ans. S'il l'a écrit en 34, ce qui n'est pas tout à fait sûr, entre 34 et 44, sa fuite en Allemagne, il avait 10 ans pour le publier. Il n'a pas voulu le publier. Il l'a laissé. Il pouvait aussi le confier à des amis. Il avait des amis dans l'immeuble, rue Gérardon. Il y avait Daragnès. Il confie la dactylographie de Dignol's Band 2, c'est-à-dire ce qui deviendra le pont de Londres, il en confie un exemplaire à Maritain Avadjia et il part avec l'autre. Ce qui prouve bien qu'il tenait à Dignol's Band quand il part en 1944, enfin Dignol's Band 2, puisque le 1 est déjà sorti. En revanche, là, c'est vraiment quelque chose qu'il a... Bah, oui,
est-ce que vous auriez préféré qu'on ne publie pas cette œuvre?
Non, moi je dirais pas ça. Je pense qu'il faut effectivement qu'il fallait le publier, mais comme document, peut-être grouper avec d'autres les manuscrits suivants. Voilà, plutôt dans peut-être des cahiers Céline plutôt que la collection Blanche, par exemple.
Cela dit, il y a quand même une préface, une sorte de pas de mise en garde, mais disons que voilà, il y a une sorte de propos, d'avant-propos très détaillé sur voilà, vous allez lire ceci. Effectivement, ce n'est pas un roman à part entière, il faut le lire comme tel, non, Frédéric Bidou?
Oui, c'est sûr. J'ajoute qu'un brouillon de Céline écrit à la hâte et qui n'a pas vocation, qui n'avait pas vocation pour Céline à être publié comme une œuvre à part entière, nous sommes d'accord, tous les trois ici, je pense, reste avec des... Il y a parfois des pépites, des trouvailles. Bah, j'invite les lecteurs de Guerre à relire les deux derniers paragraphes qui sont à pleurer d'émotion, quoi. Je veux dire, c'est magnifique, là. Mais... On a l'impression qu'entre le relatif, je dis bien le relatif classicisme de Voyage au bout de la nuit, le livre qui va suivre à peu près 4 ans après Voyage au bout de la nuit, qui s'appelle Mort à crédit, où il trouve un autre ton, là il tâtonne sans trouver encore sa petite musique, comme il l'appelait Céline. Et donc c'est un document qui est passionnant, très loyalement d'ailleurs les présentateurs évoquent ça. Voilà, simplement c'est que... Pourquoi les critiques appellent ça chef-d'œuvre? Peut-être qu'ils considèrent qu'un brouillon de Céline qu'il abandonne. Oui, on sait à peu près qu'il a été écrit en tel. Parce qu'on a sur le dos d'un manuscrit, oui, il a la date d'Elizabeth Craig, oui, qu'il va retrouver en 1934. Donc on est à peu près certain qu'il l'a écrit. Enfin, à peu près certain qu'il l'a écrit à ce moment-là. C'est passionnant. C'est passionnant et il fallait le publier.
Annick Durafour, est-ce que vous avez eu la même émotion que Frédéric Vitoux?
Il y a ici et là une phrase, une évocation. Bon, il y a une satire, par exemple. Alors, pour une fois très légère, de la famille avec le curé Arnache, etc. Le curé parlait doux comme une femme. Il buvait son café comme on boit de l'or. Bon, des petites choses comme ça, un peu légères, qui font sourire. Moi, j'aime bien l'évocation du paysage de la fin quand il voit la côte française s'éloigner. Mais à côté de ça, je trouve qu'il y a des il y a des problèmes de construction. Je trouve que même les pages sur la guerre sont répétitives et parfois pas très cohérentes dans les images. On a deux pages, par exemple, d'onomatopées tchouk-tchouk, boum-boum, etc., que je trouve, moi, tout à fait infantile. Ça me fait
vous
vraiment...
Vous auriez préféré un phrasé pour décrire ce qui se passe?
Ah bah, bien sûr. C'est-à-dire que... Enfin, bon, on sait que Céline aime bien les onomatopées, mais on voit bien l'idée, c'est d'écrire le front de l'intérieur, en focalisation interne, et donc par le bruit, hein, d'écrire la guerre par le bruit. Mais quand ça se réduit à bon, bon, tchouk, tchouk, etc., bon, c'est un peu grand guignol. Et il y a des passages comme ça que je trouve très grand guignol, quoi, caricaturaux, du genre les deux rats qui mange pépère dans le bide d'un soldat éventré, le ventre ouvert et ça glougloute comme de la confiture, parce que ça doit déborder.
Mais est-ce qu'on ne le retrouve pas justement dans ce genre de phrasé, Céline? C'était ça aussi.
Ce que je trouve qu'il y a le plus intéressant dans le livre, c'est que pour ceux qui connaissent Voyage au bout de la nuit, l'évocation de la guerre, on le voit qu'il s'engage à la guerre, et puis il y a comme une sorte d'ellipse, et il est blessé, il est rapatrié, mais la guerre elle-même, c'est-à-dire la blessure, et ce qui suit immédiatement la blessure, c'est-à-dire les hôpitaux de l'arrière, n'avait pas été évoqué dans Voyage au bout de la nuit. On comprend un peu pourquoi. Parce que, d'une certaine manière, la blessure du soldat Louis Destouches, qui va devenir Louis-Ferdinand Céline, et après tout, héroïque, il est blessé dans une mission, il était porté volontaire, non pas à cheval comme on l'a prétendu, il était à pied. Peu importe. Évoquer cette blessure, c'est évoquer aussi les médailles militaires qu'il a reçues, etc. Et donc ça ne collait pas avec l'image du planqué qu'il donne dans Voyage de la nuit, où il surjoue le pacifisme pour mieux se faire bien voir des infirmières. Donc il ne pouvait pas traiter cette violence de la de sa blessure. Mais d'un autre côté, là, d'un côté, il raconte qu'il va recevoir une médaille militaire et de l'autre, il veut se noircir parce qu'il y a toujours une vision calamiteuse, catastrophique, cauchemardesque chez Céline. Et alors, ça donne une sorte de curieux contraste. Mais ce qui est intéressant, malgré tout, c'est, comment dirais-je, le côté convulsif de l'horreur de la bataille ou des conséquences immédiates. Donc, il y a un portrait des hôpitaux de l'arrière avec ce côté sanguinolent. Mais ce qui va devenir, chez Céline, on peut dire la grossièreté, non, pardon, pas la grossièreté, le grossissement de la vision célinienne, qui est une vision qui grossit, là, on est plus proche, parce qu'il ne l'a pas encore écrit, il ne l'a pas mis en musique, d'une forme de vulgarité plutôt que d'une forme de grossissement. C'est ça qui me fait énoncer ses réserves.
Annick Durafour.
Alors pour moi, la vulgarité, je la trouve essentiellement dans ses rapports avec les femmes.
Bien sûr, c'est ce que je pensais.
Et là, dans le café, qui s'appelle lourdement aussi l'hyperbole, où la boniche s'appelle destinée. Bon, il y a des, c'est un symbolisme un peu lourd, moi je trouve. C'est effectivement très violent, vulgaire, humiliant. Ce que personne n'a remarqué, c'est que l'infirmière s'appelle quand même l'Espinasse. Céline n'ignore pas, enfin je pense qu'il y a vraiment une allusion à Julie de l'Espinasse, qui est en fait une épistolière du XVIIIe siècle, une femme cultivée, savante, qui reçoit les savants, les intellectuels de l'époque. Et il en fait, de cette femme-là, il en fait une infirmière branleuse et nécrophile. Avec des dents vertes. Mais Julie de l'Espinasse avait la vérole, alors vert, je ne sais pas. Et aussi, non, il fait allusion à la passion de l'Espinasse. Et donc, pour moi, là, il y a quelque chose de... Céline déteste les intellectuels et il n'aime pas
il
trop...
Il n'est pas le seul, là, dans les écrivains, d'ailleurs.
Non, mais à ce point-là, tout de même...
Je ne suis pas tout à fait de votre avis.
Oh oui, les intellectuels n'y comprennent rien, ils croient que les mots ne sont que... Enfin, ils croient que juif, c'est un mot, par exemple. Non, et puis, il est mal à l'aise avec les intellectuels. Il rencontre Bernanos, il rencontre Malraux, il rencontre Milton Indus, tous sentent le malaise de Céline, qui, malgré tout, s'est arrêté au certificat. À une culture tout de même légère, même un critique d'extrême droite de son bord, comme Robert Poulet, qui admire en même temps beaucoup Céline, dit que manifestement il lui manquait assez d'intelligence pour tenir le rôle qu'il avait à assumer.
Frédéric Vitou.
Non, je crois qu'on fait.
Il y a des parallèles
qui sont faits. Parce que je suis prêt à admettre la rupture de Céline et des intellectuels. C'est pas le cas en 32 ou en 33, où il a quand même été... c'est pas la rupture de 36-37. Hein. Donc, ce que vous dites sur Poulet, ce que vous dites sur les autres, c'est tout à fait exact, mais bien après, historiquement.
Bernanos le rencontre à cette période-là.
Par exemple, moi, je peux vous dire, par exemple, en regardant de près la rencontre de Céline avec Mauriac, ça se passe bien. Même si après, ils vont se haïr et se détester. Mais ils déjeunent ensemble au restaurant, ils sont vus la veille. Après le dîner au restaurant, on sait par les carnets de Ramon Fernandez, ils vont continuer la soirée chez Céline, à rue Lepic. Rue Gérardon, c'est très tardivement, hein, beaucoup plus tard, sous l'occupation. Donc, Céline est plutôt bien accueillie. Il va continuer à avoir des rapports avec beaucoup d'intellectuels. Donc, on peut pas parler de rupture avec des intellectuels, de mépris. Je ne sais pas si... Je n'avais pas pensé à toute cette symbolique sur l'infirmière. Est-ce que c'est lié aussi avec... l'acteur Pierre Brasseur qui s'appelait Espinasse. Vous voyez, on pourrait s'amuser à faire des tas de références. Ça me paraît un peu risqué. Je sais qu'il s'inspire aussi, mais de manière très cruelle, d'une femme qu'il a sans doute connue, une infirmière, Alice David. Mais peu importe. En effet, il y a une sorte de vision qui, aujourd'hui, avec notre sensibilité, nous choque beaucoup dans le rapport avec la femme. Mais en même temps, elle est compassionnelle. C'est une femme qui, devant des gens moribonds, les branle pour les faire penser à autre chose. On pourrait dire que c'est une sainte qui veut leur bien-être en leur faisant penser à autre chose. Donc, tout est très, très complexe. C'est ça qui est formidable quand on parle de Céline. C'est qu'on arrive toujours... à dire une chose qui est vraie et le contraire qui est vrai aussi.
Mais c'est justement le principe d'un débat et je suis content que vous soyez là tous les deux pour en parler. Annick Durafour, spécialiste de l'histoire de l'antisémitisme, du racisme et l'académicien. Frédéric Vitou sont là pour nous parler de Céline
in extenso et aussi de ce livre retrouvé, Guerre, ce manuscrit retrouvé, 19h44. Vous êtes sur Europe 1, on revient dans un instant.
Europe Soir Weekend, Pierre de Villeneuve.
Bien accompagné ce soir avec l'académicien Frédéric Vitou et l'agrégé de l'aide spécialiste de l'histoire de l'antisémitisme et du racisme, Annick Durafour, pour parler de ce texte que les éditions Gallimard publient et qui fait partie des records de vente de livres en ce moment. Guerre, signé de Louis-Ferdinand Céline. Alors on va sortir un peu de ce texte dont on a beaucoup parlé en première partie de débat pour en venir à la question initiale. Vous savez que le ministre de l'Intérieur, il n'y a pas si longtemps que ça, a fait condamner une femme qui, dans une manifestation, portait une banderole antisémite. L'antisémitisme est un délit. Alors la question, chers amis, c'est est-ce qu'on peut lire Céline alors qu'il est foncièrement antisémite? Quand on lit notamment ce qui est écrit dans l'école des cadavres, enfin, je ne vais pas le réciter parce que moi-même, ça me met mal à l'aise. Annick Durafour, est-ce qu'un Français, aujourd'hui, peut acheter ça?
Alors,
pardon de poser la question aussi crûment.
Oui, oui, oui. Moi, j'ai vu des. Je me souviens, j'étais en train de lire Céline, place de la Sorbonne, il y a très longtemps de ça. Et j'ai vu des Allemands qui étaient sidérés de me voir lire Céline. Pour eux, c'était impensable parce que, bon, ils devaient connaître, en savoir assez.
Et ils vous ont parlé? Ils ont dit quoi?
Oui, il y a une remarque, mais vous lisez ça, vous lisez Céline. Enfin, c'était. Ils étaient choqués. Je pense que.
Et vous avez répondu quoi?
J'ai répondu ce que je vais vous dire là, c'est oui, bien sûr qu'on peut lire les romans de Céline. Et on va évidemment distinguer les romans et puis les pamphlets. Hein. Les pamphlets sont des œuvres d'intervention, sont des œuvres de propagande qui cherchent à agir sur l'opinion à un moment crucial en France, quand même, les années 30. Alors, il prend aussi la vague de l'antisémitisme à ce moment-là. Il y a les années 37-39, si vous voulez. 50% des pamphlets qui paraissent dans la décennie paraissent entre 37 et 39. Oui. Libelle, etc. Donc, il y a une forme d'opportunisme chez Céline qui n'empêche pas ce fanatisme, cette violence, cette virulence antisémite. Donc, la question des pamphlets est tout de même à part, différente. Alors, ça ne veut pas dire que...
C'est
le même homme.
C'est le même homme.
Alors, c'est là que c'est intéressant.
Eh ben oui.
C'est-à-dire que pour moi, il y a l'hypothèse, c'est qu'il y a au fond, il y a une matrice commune entre l'homme et l'écrivain. Mm-hmm. Entre, donc, les pamphlets même et les romans. Vous avez des dimensions pamphlétaires dans les romans. C'est-à-dire une dimension polémique, il y a de la violence, il y a de la virulence, il y a du mépris. Enfin, il y a beaucoup de... Et puis, alors, il y a autre chose. Il y a ce ton absolument assertif. Il y a quelque chose de la vérité de comptoir qu'on trouve dans des formules de voyage qu'on trouve évidemment dans les pamphlets. C'est celui qui sait, qui a vu l'envers du décor, à qui on ne la fait pas, qui ne doute pas, qui ne réfléchit pas, qui sait la vérité. Et ça, c'est...
Dans la série, il n'y a pas de débat.
Non, il n'y a pas de débat pour Céline. Il faut voir ses entretiens avec Milton Indus. Enfin, il refuse même, il ne peut pas argumenter. Il dit taisez-vous. Moi, je sais, vous ne savez pas, taisez-vous. Quoi. Et Milton Indus est assez un juif américain qui vient le voir au Danemark. Et il est assez choqué de ce caractère très élémentaire de Céline. Donc Céline, c'est quelqu'un de raffiné dans le... C'est un raffiné dans le style, dans la petite musique. Mais un roman, c'est pas seulement une petite musique. Ça veut dire que pour moi, on peut pas aimer... Enfin, aimer le style, il aimait le style, mais il n'aimait pas les idées. Vous savez, c'est Flaubert qui parle de Monsieur Homais, comme ça. Hein. Il y a dans... Et c'est ça qui est intéressant, c'est de travailler les romans. Même Guerre. Hein. Guerre, c'est quand même... Ferdinand se libère de toutes les contraintes. Lève toutes les inhibitions, tous les devoirs, toutes les normes, et il prend modèle sur le macro. Parce que personne n'en parle. On fait des ronds de jambes et on dit « Ah, il y a une sexualité un peu débridée » ou « C'est vulgaire ». Mais Ferdinand se met à l'école du macro. Et d'ailleurs, même dans la biographie, les relations entre Céline et le prosélytisme sont assez lourdes.
Beaucoup de choses viennent d'être dites, Frédéric Vitou.
Non, je ne vais pas contredire ni commenter. Je ne vois pas très bien le rapport entre les côtés assertifs, comme vous le dites, et l'antisémitisme. En effet, surtout dans Voyage au bout de la nuit, il y a beaucoup d'aphorismes. Mais ce ne sont pas des bons mots, ce ne sont pas des brèves de comptoir. Quand Céline écrit, par exemple, L'amour, c'est l'infini mis à la portée des caniches. Ce n'est pas les tontons flingueurs, c'est les pensées de Pascal.
Non,
c'est
pas
les pensées
tout.
De Pascal. C'est-à-dire
c'est
quoi
une phrase bête.
T'en permettez. c'est-à-dire l'homme est dans un cloaque. Ouais, là, ça. Et puis, il y a quelque part, au fond du cloaque ou du côté caniche des hommes, il y a l'infini qui est là. C'est-à-dire quelque chose qui le dépasse et qui est plus grand que lui. Bon, ça, c'est Pascal.
Vous n'avez pas la même lecture.
C'est pas Yvan Audouard. Et d'ailleurs, qui a lu un jour cette phrase, l'a pris en pleine figure parce que justement, il y a cette complexité-là. Voilà. Donc, simplement, oui, Céline est antisémite. Bon, alors, la question n'est même pas de savoir si c'est bien ou c'est mal. On est tous d'accord pour s'effrayer des pamphlets antisémites de Céline. Il n'y a pas là où il y a un débat. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait ? Alors,
deux questions que je pose, en effet.
Oui. Soit on ne lit pas du tout Céline. Bon, le monde entier nous a donné tort, puisque Céline est traduit, pas de manière best-seller, mais dans le monde entier. Gallimard me disait, c'est probablement l'écrivain français du XXe siècle qui compte le plus de traductions dans le monde entier. Est-ce qu'il faut lire le bon Céline et ne pas lire le mauvais Céline ? Bon, alors on peut dire pour un chercheur, c'est un bloc, et ça vous avez raison, il faut prendre Céline avec ses ombres, et Dieu sait s'il y en a, et puis cette œuvre. Est-ce qu'il faut réimprimer les pamphlets ? Ça, c'est la question sur laquelle il n'y a pas de réponse. Parce que, en effet, toute incitation à la haine raciale et en particulier à l'antisémitisme, c'est en principe prohibé par la loi.
On a réimprimé Mein Kampf avec notice.
Alors, est-ce qu'il faut, avec mille précautions, faire une édition critique extrêmement savante, très montrant toutes les sources, tous les fonds de tiroir dont il s'est servi, et le faire en édition critique, ou considérer que même comme ça, ça ferait encore, dans notre société d'aujourd'hui, qui n'est pas débarrassé, loin s'en faut, hélas, de l'antisémitisme, je ne vais pas rentrer dans des exemples, on les connaît, hélas, il y en a beaucoup, est-ce que ça serait délétère ou non ? Bon, Madame Destouches, la veuve de Céline, à la demande de son mari, avait interdit les pamphlets. Bon, c'était réglé.
Interdit de les réimprimer.
Oui, mais ne voulait pas qu'on les réimprime. Ouais. Aux yeux de Céline, c'était des écrits de circonstance, vous l'aviez rappelé, c'est vrai en un sens. Et qu'il trouvait qu'il ne voulait pas les rappeler, les republier. C'est une question, moi, je n'ai pas de réponse. Je comprends qu'on peut dire, est-ce qu'on peut vivre en occultant comme document une partie, même la plus ténébreuse d'un écrivain, ou est-ce qu'il faut, au contraire, les maintenir dans l'ombre et l'effacer ? C'est une question que les intellectuels doivent se poser, mais qui doit se poser dans l'opinion publique.
Frédéric Vito, j'ai une question pour vous. Vous avez tout lu, Céline ?
Oui.
Tout, Céline ?
Oh, oui.
Et les pamphlets, quand vous les avez lus pour la première fois, vous les avez lus, j'allais dire, comment ? Est-ce que vous les avez lus d'une traite ? Est-ce que vous les avez relus ? Est-ce qu'il y a des phrases, des paragraphes que vous avez relus pour vous pencher dessus ? Comment est-ce que vous avez fait ?
J'ai été partagé entre la violence, effrayé. C'est des textes qui sont écrits, à la différence des livres, très rapidement, en quelques semaines. Il les écrivait très vite, donc il n'y a pas ces inventions stylistiques. Parfois, il y a des trucs qui sont... Pour Céline, c'était des choses drôles, ça qui est ahurissant. Bagatelle pour un massacre, c'était j'écris des bagatelles pour éviter le massacre que sera la nouvelle guerre à venir. C'était cette tradition pacifiste que Poliakov a très très bien montré dans son histoire de l'antisémitisme. L'école des cadavres, bon, voilà, est-ce que les cadavres de 14 n'ont rien appris ? Donc, c'était écrit très vite comme ça. Ça m'a effrayé. Un honnête homme ne peut pas ne pas être offusqué par ça. Maintenant, quand on est un lecteur, on regarde un peu plus près d'où ça vient, comment ça va. Et pour Céline, c'est très compliqué. C'est très compliqué. C'est-à-dire que l'antisémitisme des fascistes français, de Je suis partout, Rebattet, Brasillac, on voit d'où ça vient. Bon. Chez Céline, il faudrait faire des heures d'émission pour essayer de comprendre d'où vient cet antisémitisme-là, qui n'est pas celui d'un ordre nouveau, mais c'est celui... Enfin, je pourrais parler des heures là-dessus.
Votre
et
avis
c'est
là-dessus,
trop compliqué.
Annick Durafour.
Là-dessus, je ne suis pas tout à fait d'accord, parce qu'on connaît les sources. Enfin,
bien sûr, les sources.
Oui, donc on sait d'où ça vient. Et il récupère la propagande des officines, la propagande allemande, du Weltdienst, du bulletin antisémite mondial, nazi. Il lit vraiment tout ça, il les pompe, il les découpe. Et si vous voulez, donc c'est la littérature des officines. Et il fait
ça,
passer.
Je suis d'accord avec vous, je l'avais dit avant vous, que ça venait des sources bâclées qui viennent
de toutes
les raclures.
Ça vient pas d'un mystère très profond.
Non, mais ça, c'est des documents. Oui, mais je parle d'où vient l'antisémitisme de Céline.
De Céline.
Bon, c'est très
gros. Vous avez Marcel. Oui, enfin, il y a plein de choses. Bon, oui, l'enfance, l'éducation, les parents. Mais alors, moi, j'ai envie de dire quelque chose qui est très particulier chez Céline, c'est que la haine, j'ai repéré comme ça le thème de la haine dans toute l'œuvre. Aussi bien dans les romans, dans les essais et dans la correspondance. Et la haine est revendiquée chez Céline. Elle est aimée. Il dit dans Voyage, la haine, c'est le piment vital de l'existence.
Donc on peut lire, mais il faut s'y préparer, d'une certaine manière. C'est ce que vous dites, Annick Durafour.
Non, ce que je veux dire, c'est que la haine préexiste, et un truc très curieux, la haine chez Céline comme préexiste à l'expression de l'antisémitisme. Alors, question, est-ce qu'il est éduqué à la haine par l'antisémitisme, mmh. ou est-ce que sa haine, à un moment, la haine métier polymorphe, hein, qui vise toutes les cibles,
est-ce qu'elle est congénitale,
à un moment, se catalyse sur les Juifs. Bon. Mmh. Alors là, il y a aussi les circonstances. Hein. Céline réagit. Il ne faut pas oublier qu'il est aussi tout à fait anticommuniste. Il a des idées tout à fait, en fait, réactionnaires. Hein. Avant Voyage, quand on suit la correspondance. Et donc
voilà, il faut faire son marché, j'allais dire. Dans tout ce que vous avez dit, cette émission est évidemment à réécouter. Et Annick Durafour et Frédéric Vitoux.
Je pourrais juste employer un autre mot.
Dites-vous.
C'est
dites
que
maintenant.
Comme toujours, tout est vrai et le contraire est vrai. C'est que c'est vrai qu'il y a une violence, il y a une haine chez Céline. Vous avez raison de la souligner. Mais on pourrait employer un autre mot qui est toujours chez Céline. C'est le mot compassionnel. C'est aussi un médecin. Il y a aussi une connaissance, une sensibilité à la souffrance,
en tout cas,
qui est chez Céline, comme peu d'écrivains français du XXe siècle sont aussi compassionnels que lui, en même temps qu'ils sont très violents.
Avec vous deux, on est prévenus avant de lire Guerre, ce dernier texte de Louis-Ferdinand Céline, réimprimé et réédité dernièrement par Gallimard. Merci à vous, Frédéric Vitoux et Annick Durafour. Place au sport maintenant, Lionel Rousseau.
Oui, Pierre, en effet, dans quelques instants, on va se retrouver avec nos experts pour évoquer d'abord la deuxième demi-finale de Top 14 entre Montpellier et Bordeaux-Bègles, puisque c'est Castres qui s'est imposé hier face à Toulouse pour la finale de rugby, le match en intégralité bien sûr sur Europe 1, puis nos grands débats football avec nos experts, autour notamment de la possible venue de Christophe Galtier au Paris Saint-Germain en tant qu'entraîneur.
Très bonne soirée.